Bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle Vivre durable que nous proposons depuis début janvier 2020 à la BPI. Ce cycle est organisé par le service savoir pratique de la bibliothèque. Et tout au long de l'année, nous allons vous proposer un certain nombre de rencontres, d'ateliers sur cette thématique du vivre durable et nous proposer des façons d'être acteurs de la transition écologique aujourd'hui, des moyens d'agir en tout cas et de réfléchir. Ce soir, nous avons la chance de vous proposer une rencontre autour de la sobriété énergétique avec notamment une présentation du scénario Négawatt. J'accueille donc Aurélie Luneau qui va nous présenter la soirée et l'animer, Stéphane Signoret de la Compagnie des Négawatts et Frédéric Delomo de l'Agence parisienne du climat. Et je passe la parole à Aurélie pour débuter cette rencontre. La rencontre sera suivie de questions avec le public, bien sûr. Merci, bonne soirée.
Merci à tous et merci d'être aussi nombreux. Et je remercie aussi Christine Carrie, la directrice de la BPI, qui nous accueille. Et puis Marie Paillet, qui vient de prendre la parole, puisqu'elle est chargée de programmation au service Savoir Pratique. Et c'est aussi à elle que l'on doit cette table ronde. Clin d'œil, bien sûr, à nos techniciens Thomas et Alexandre, qui vont faire en sorte de capter aussi de belle manière la conférence, et cette conférence qui sera aussi en lien sur le site de la BPI, donc écoutable, et pour tous ceux aussi qui auront raté cette conférence, et n'hésitez pas justement à les orienter vers le site de la BPI. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 à peu près, sur ce thème là, vers la sobriété énergétique, le scénario Négawatt. Alors la séance sera découpée en trois temps. Une présentation tout d'abord faite par nos invités de leur institution, de leur rôle et des scénarios plans d'action établis à ce jour. Ensuite, on aura une petite discussion aussi ensemble pour revenir sur des points qui auront été présentés. Et puis, vous aurez ce temps de questions à vous pour l'échange avec nos invités et répondre aussi à vos attentes. Alors tout d'abord, peut-être en guise quand même d'introduction, un petit rappel de la situation. La planète se réchauffe, le monde subit un bouleversement inédit dans cette ère de l'Anthropocène qui voit un changement climatique et un changement systémique d'origine humaine. Les travaux scientifiques comme ceux du GIEC ou comme d'autres organismes à l'échelle internationale ont renseigné les causes, ont renseigné les effets, les conséquences du réchauffement climatique en cours. Et dans ce cœur de voix qui s'élève et qui tente aujourd'hui de sensibiliser, d'informer, de responsabiliser, il y a différents acteurs, des acteurs aussi politiques, économiques, les citoyens. En tout cas, la France s'est illustrée notamment lors de la COP21, et puis fait figure de locomotive, réalité ou fiction, sincérité ou apparence, je laisse chacun juger. En tout cas, la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone, grâce à deux outils, on peut les préciser, la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone, et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Eh bien, cette feuille de route a été présentée la semaine dernière par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, et elle a suscité critiques et doutes, puisque cette feuille de route montre une France alors, qui avance peut-être, mais à un rythme jugé insuffisant par beaucoup, et le pays va même s'autoriser à émettre plus de gaz à effet de serre sur un court terme pour ensuite être potentiellement vertueux, en tout cas on espère vertueux, à long terme. Ce choix, vous l'imaginez, a bien sûr suscité des réactions, notamment au niveau du Haut Conseil pour le climat, puisque ce choix va à l'encontre des recommandations de ce Haut Conseil, et le Haut Conseil pour le climat aurait voulu que les objectifs soient maintenus, bien sûr, et que les budgets prévus soient inscrits dans la loi. Et la France ne mettrait donc pas tous les moyens en œuvre pour atteindre les objectifs affichés depuis la COP21, même si, il faut le dire aussi par honnêteté, la France double sa contribution au Fonds vert pour le climat. Elle relève le défi du développement des énergies renouvelables pour 2030 et aussi le défi de la fin des financements aux énergies fossiles de la Banque européenne d'investissement d'ici 2021. Cette année 2020 donc sera cruciale puisqu'elle verra l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et des États donc amenés à s'engager d'ici la fin de l'année pour rester en deçà de 2 degrés de réchauffement climatique. Or, beaucoup le savent certainement parmi vous, cette transition écologique, elle a besoin de réponses fortes, à la hauteur des enjeux et des effets du réchauffement climatique, dont certaines populations, déjà dans le monde, subissent les conséquences. On pense aux migrants du climat, bien sûr. Au-delà des actes forts, ce sont donc des transformations sociétales qu'il va falloir engager dans ce monde pour le rendre plus viable, d'où le besoin impérieux d'informer, n'est-ce pas, j'imagine, hein, Stéphane Signoret et Frédéric Delhomo, ce besoin d'informer, d'éclairer et d'accompagner les citoyens sur la voie de la transition. C'est le rôle, ce soir, de la conférence et le rôle de la BPI dans cette série de conférences. Je laisse place à la présentation de nos invités. À ma droite, Stéphane Signoret, membre de Negawatt, ingénieur en thermique énergétique et journaliste scientifique. Et vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, Stéphane, sur votre parcours.
Oui, bonjour à tous et à toutes. En deux mots, c'est très simple. Voilà, j'ai une double formation qui m'a donné l'occasion dans ma vie de travailler pour de la presse professionnelle spécialisée dans l'énergie, hein, que ce soit pour des entreprises ou pour des associations. Voilà, et ça fait presque 18 ans maintenant que je suis dans le secteur de l'énergie. Et j'ai eu l'occasion, par conviction personnelle, de m'engager dans l'association Negawatt, dont je vous expliquerai le scénario dans quelques secondes.
On peut peut-être préciser quand même que vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue spécialisée Énergie Plus, hein,
c'est voilà, ça ? Voilà, c'est ça, exactement.
Et membre fondateur de l'Association des journalistes de l'énergie. Voilà, on sera complet à peu près, actuellement vice-président.
Je fais plein d'autres choses aussi, mais on ne va pas tout dire.
Frédéric Delhomo, vous êtes de l'Agence parisienne pour le climat, directeur Habitat et Rénovation. Peut-être quelques informations supplémentaires sur votre parcours ?
Oui, ça fait une douzaine d'années que j'ai une activité professionnelle sur les questions d'énergie, maîtrise de l'énergie. Ça fait 3 ans que je suis à l'Agence parisienne du climat et préalablement, j'avais travaillé notamment dans le secteur des ONG sur le développement d'une action qui s'appelle Famille Énergie Positive, qui est un défi sur les économies d'énergie qui s'est décliné un peu partout en France. Et puis, de formation, j'étais d'abord biologiste, puis urbaniste.
On va commencer peut-être la présentation de ce scénario Negawatt. Et tout au long de la présentation de Stéphane Signoret, Frédéric Delhomo pourra intervenir et compléter justement pour bien comprendre ces outils aujourd'hui à disposition.
Ok, c'est parti. Donc, merci de venir écouter parce que c'est important d'avoir bien en tête les éléments de la transition énergétique et des solutions qu'on peut trouver pour répondre à ces enjeux, non seulement nationaux, mais mondiaux. Et ce scénario que je vais vous balayer assez rapidement, de notre point de vue, est une des solutions. Alors en deux mots, si j'appuie sur le bon bouton, on va faire comme ça, hop. Qui est Negawatt ? C'est une association qui a été créée en 2001. Plutôt une association de spécialistes, hein, beaucoup d'ingénieurs, mais pas uniquement. Et comme je vais vous l'expliquer après, ces spécialistes ont décidé de se pencher sur la question de l'énergie en France parce qu'il y avait des méthodes de faire des pouvoirs publics qui leur semblaient pas adaptées. Et donc le premier scénario était en 2003, puis il a été actualisé en 2006, 2011 et 2017. Donc c'est la version 2017 que je vais vous présenter. Mais cette association n'a pas fait que ça, hein, puisque bien sûr, d'abord elle a essayé de vendre, si j'ose dire, de promouvoir son scénario, mais elle a aussi créé en 2009 un institut Negawatt, qui lui porte des solutions concrètes, notamment pour former les artisans du bâtiment. Et elle a aussi créé Doremi en 2011, on en parlera certainement au moment des questions, qui est une expérimentation maintenant largement diffusée de rénovation des maisons individuelles. Donc à la fois on est spécialiste, mais aussi on est sur le terrain. Alors l'urgence de l'action dans le contexte actuel, Aurélie l'a déjà bien décrit, et François Jemaine qui avait fait la conférence inaugurale la semaine passée l'a bien expliqué, donc je ne vais pas détailler. Hein, bien sûr, le contexte c'est l'urgence climatique, qui est déjà une réalité, hein, Aurélie l'a dit, dans le monde. On aurait pu mettre des photos des incendies en Australie, mais une des conséquences les plus fortes, c'est les sécheresses, les inondations qui affectent l'agriculture, et notamment en Afrique ou dans certains pays d'Asie. Et d'ailleurs, les femmes sont souvent les plus touchées. En France, hein, également, ça c'est une photo du Doubs, à l'automne dernier, 2018 je crois. Épisode de sécheresse, et on n'avait pas l'habitude de voir ça en France, donc ça pose question. Et puis pour rappeler un peu les principes, sans rentrer dans tous les détails scientifiques que le GIEC donne régulièrement. Vous avez là une courbe des écarts de température sur la planète. Donc l'historique, c'est la courbe rouge. Donc c'est l'écart de température par rapport aux années 1850-1900. On a déjà quasiment 1 degré de hausse de la température. On se dirige allègrement vers les 1,5 à l'horizon 2040. Et donc toutes les courbes grises légèrement colorées que vous voyez là, ce sont des scénarios du GIEC qui disent si on fait beaucoup d'efforts, on est à tel niveau, si on fait pas trop d'efforts, on sera là, etc. etc. Et donc en fait, ce qui est important de voir, c'est que pour l'instant, on n'est pas du tout sur la courbe qui nous amène en dessous des 1,5 degrés. Et les 2 degrés, c'est pas évident. On va essayer de rester optimiste, hein, vous allez voir quand même, hein, jusqu'à la fin. Et juste pour avoir une idée, bien sûr, de ce que veut dire ces histoires de température, hein, bon, je ne vous refais pas tout l'historique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2, mais aussi beaucoup le méthane, et les oxydes d'azote qui font ce réchauffement. Et donc ces émissions de gaz à effet de serre, la courbe bleue, c'est l'historique au début, et puis en rouge, c'est la trajectoire sur laquelle on est actuellement. Donc si on y reste, on est à 3-4-5 degrés de réchauffement planétaire. Et donc 3-4-5 degrés, c'est pas la différence quand vous sortez dehors et que vous allez bronzer sur la plage ou je ne sais quoi. C'est vraiment une différence de température qui nous rapproche. C'est quasiment l'écart qui est entre une ère interglaciaire et une ère glaciaire. Donc ça veut dire que c'est un bouleversement pour la planète. C'est un bouleversement pour les gens qui vivent sur la planète. Donc si on veut arriver à 2 degrés, il faut suivre la courbe bleue. La courbe bleue, vous voyez, à un moment donné, elle arrive à zéro. Ça veut dire qu'il faut émettre zéro gaz à effet de serre. Donc zéro gaz à effet de serre, ça veut dire zéro pétrole, zéro charbon, zéro gaz naturel. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. On peut discuter de la date, etc. Mais vous voyez, plus on est sur la courbe rouge, plus la pente va être difficile pour atteindre le zéro. Enfin, si on ne veut pas le faire dans 3000 ans, bien sûr. Alors, quelle est cette démarche négawatt ? Parce qu'on a toujours gardé les mêmes principes depuis le scénario de 2003. Je vais quand même réessayer ça. Bon, c'est pas grave. Donc ce scénario, il se veut réaliste et soutenable. Donc il part de 3 principes. On va hiérarchiser les solutions. Hein, je vous expliquerai un petit peu ce que ça veut dire après, mais ça veut dire qu'on va d'abord agir sur la demande d'énergie et non pas sur la production d'énergie. On va utiliser des solutions qui sont technologiquement déjà matures. Hein, on ne va pas attendre que GeoTrouve-Tout nous fasse un truc génial qui consomme peu et qui émet peu de gaz à effet de serre, mais qui permet d'avoir tous les services qu'on veut. Donc tout ça, c'est réaliste. Et puis, bien sûr, il faut que le développement soit soutenable. Hein, l'idée, comme on le dit souvent dans cette petite phrase à la fin, c'est de léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Hein. On a quand même, a priori, plusieurs générations qui arrivent derrière nous et autant ne pas leur pourrir la vie. Donc il y a 3 grands piliers. Hein. Vous allez voir, je vais le répéter souvent dans le scénario. Ce sont la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. Et on va les prendre dans cet ordre, grosso modo, pour expliquer ce qu'on peut faire. Alors quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, en fait, à part les principes. Parce que concrètement, c'est quoi le scénario ? Donc on n'a pas de boule de cristal à négawatt, hein, bien sûr. On ne prédit pas l'avenir. Ce qu'on a fait, merci beaucoup, c'est qu'on est parti de l'existant, donc en 2017, c'était à partir des données de 2015. Et puis on a dit, année après année, voilà ce qu'il faudrait faire, petit à petit, pour consommer moins d'énergie. Et petit à petit, pour remplacer nos modes de production classiques par des énergies renouvelables. Donc ce n'est pas une sorte de projection magique qu'on imagine pour 2050, hein, puisque l'horizon qu'on s'est donné, c'est 2050. C'est qu'on bâtit par des calculs, année après année, tout ce qu'il faut faire. Et au lieu de dire par magie, tiens, ça serait bien de réduire de, je sais pas, cette année 5% la consommation des bâtiments, et hop, facile, hein, on ne fait pas ça. On prend tous les usages qui existent dans la maison et on voit les efforts qu'on peut faire. Donc année après année, on va par exemple calculer je sais pas, combien on fait de machines à laver par semaine, quelle est la surface de logement dont vous disposez, à quel rythme on peut rénover les bâtiments, etc. etc. Donc il faut imaginer que le scénario négawatt, en fait, c'est un immense fichier de calcul avec des milliers de cases. Et on calcule tous les ans ça et on voit si au final, on arrive à quelque chose d'intéressant. Ça va jusque-là ? Bon, je suis sûr que j'ai déjà trop parlé. Aurélie va me faire signe.
Non,
j'aurais même pas fait la moitié. Alors, quelle était la situation initiale en 2015 ? On va partir de là avant de remonter le chemin. Alors on utilise souvent un graphe qu'on appelle un diagramme de Sankey qu'on a simplifié ici. On va d'abord partir de la consommation. C'est quoi la consommation des Français en 2015? Bon, c'est quasiment la même chose aujourd'hui. La moitié, c'est de la chaleur. La moitié de ce qu'on consomme en énergie en France, c'est de la chaleur. 35% c'est de la mobilité, 15% c'est de l'électricité spécifique, ce qu'on appelle électricité spécifique. C'est des équipements que vous ne pouvez pas remplacer par autre chose que de l'électricité. Typiquement l'ordinateur, il n'y a pas d'ordinateur qui fonctionne au gaz, vous pouvez faire qu'avec de l'électricité. C'est ça l'électricité spécifique. Mais toute cette énergie, elle ne vient pas de nulle part, bien sûr, ce n'est pas comme par magie. Elle vient d'une source primaire, ce qu'on appelle les sources primaires, à l'autre bout de l'écran. Et c'est quoi les trois grandes sources primaires en France? C'est des énergies fossiles, à presque la moitié, du nucléaire, à une petite moitié, et puis un petit bandeau d'énergie renouvelable qui, au fil du temps, s'est installé. Et entre les deux, on a des tas de vecteurs différents. On ne va pas rentrer dans le détail ici, l'électricité, du gaz, des carburants, etc. Ce qui est important à comprendre dans cette photo de la consommation d'énergie en France, c'est que le point le plus important, c'est la chaleur. Alors que souvent en France, tout le débat tourne autour de l'électricité. Mais c'est pas ça l'enjeu, c'est la chaleur. Et on a là-bas, vous voyez, qui sort du petit carré nucléaire, une grande flèche grise. En fait, ce sont les pertes d'énergie primaire aux centrales nucléaires, parce qu'une centrale nucléaire, ça n'a qu'un rendement de 30%. Donc en fait, on perd les deux tiers de l'énergie primaire, c'est-à-dire de l'énergie contenue dans l'uranium, dans la matière radioactive, et ça part aux petits oiseaux. Et quand on regarde les chiffres, on voit que la quantité d'énergie perdue dans les centrales, c'est presque l'équivalent de la chaleur qu'on consomme en France. Donc il y a un peu du gaspillage, et dans notre philosophie, quand on a bâti le scénario, c'était aussi d'essayer de résoudre ces problèmes de gaspillage. Donc j'ai posé le décor. Maintenant, on va voir comment on a fait évoluer au fil des ans, comme je vous disais, la consommation et la production d'énergie pour essayer d'arriver à un horizon meilleur. C'est quand même l'objectif. Alors je vais balayer un peu vite, vous m'excuserez, et puis on y reviendra si jamais il y a des points que vous voulez qu'on développe un petit peu plus tard. Donc le premier point, ce sont les bâtiments. Les bâtiments, c'est presque la moitié de la consommation d'énergie finale en France, dont beaucoup de chaleur. Donc sur ce point, il y a beaucoup de choses à considérer, notamment que les maisons individuelles construites avant 1975, c'est un parc énorme qu'il faut vraiment adresser en termes de rénovation. Et donc c'est l'objectif numéro un, isoler les maisons individuelles. Alors il y a d'autres bâtiments à isoler. L'Agence parisienne du climat est bien au fait du sujet. Et ça, c'est non seulement... important parce qu'on va voir que ça va nous permettre de réduire énormément la consommation d'énergie. C'est surtout une source d'emploi pour des dizaines d'années. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des bâtiments à rénover. On n'a pas trop d'enjeux sur les bâtiments neufs qui, eux, ont une réglementation qui font qu'ils sont relativement performants. On détaillera peut-être un peu plus tard la façon dont on peut rénover. Mais sachez que nous, on vise globalement, en moyenne, une réduction, une division par quatre des consommations de chauffage. Ce qui n'est pas une paille. Et on peut notamment passer par la loi ou une réglementation qui dirait que la rénovation est obligatoire quand vous vendez votre logement. Pour les propriétaires, ça serait une solution. Alors, les gens n'aiment pas trop, mais on peut imaginer ça. Donc, je ne l'ai pas détaillé, mais dans ces mesures que vous voyez là sur le bâtiment, c'est un mélange de sobriété et d'efficacité dans le scénario. C'est-à-dire que isoler un bâtiment, c'est faire de l'efficacité, c'est le rendre plus efficace. Mais on peut aussi réduire la taille des logements par habitant. On peut faire plus de colocation. Enfin voilà, on peut changer la forme des villes pour que les gens n'aient pas à faire beaucoup de transport avant d'aller au boulot. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici. Ça, c'est de la sobriété typiquement. Donc dans le transport, là c'est transport égale voiture, camion égale essence diesel égale émission de gaz à effet de serre. Donc là, c'est un enjeu crucial, même s'il y a le trafic aérien qui est important. Mais si on veut enlever le pétrole, il ne faut plus avoir de voiture qui roule au pétrole. C'est simple. Bon, il n'y en a toujours pas de voiture à eau. Là aussi, on promeut des solutions de sobriété et d'efficacité. Donc, en sobriété, c'est simple, c'est faire moins de kilomètres. Ça, c'est de la sobriété dans le transport. Donc, dans le scénario, alors, attention, hein, quand je vous dis ça, rappelez-vous que le scénario va de 2017 à 2050, hein, il y a 30 ans. C'est pas pour demain, c'est pas du jour au lendemain, on va vous dire, bon, allez, hop, c'est suffit, maintenant, votre voiture, vous la prenez qu'un jour sur cinq. Hein. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'en 40 ans, progressivement, on fasse diminuer ces nombres de kilomètres. Donc, typiquement, les voitures, c'est pas énorme, hein, on réduit de 6 à 10% le nombre de kilomètres, c'est pas non plus drastique, hein, on vous demande pas d'arrêter de voyager. Par contre, dans l'aérien, on y va un petit peu plus fort, on divise par deux le nombre de voyages. Mais ce n'est jamais que le niveau qu'il y avait dans les années 80-90. Que je sache, on n'était pas spécialement malheureux à cette époque. Donc ce n'est pas un retour en arrière. Hein. Voilà, donc il y a plein d'autres mesures. Baisser la vitesse sur la route, avoir un peu plus de gens dans les voitures, avoir des voitures plus petites, avoir des voitures plus efficaces avec des moteurs qui consomment moins d'énergie. Et puis vous allez me dire, bien sûr, mais alors vos voitures, elles roulent à quoi ? Eh bien, c'est simple. Dans le scénario négawatt, il y a deux modes de transport importants au niveau routier. Ce sont les voitures électriques et les voitures au gaz. Donc, les voitures électriques, on en parle beaucoup. C'est une solution en ville, en zone périurbaine, pour des distances pas trop longues. Et la voiture au gaz, alors évidemment, en France, on n'en a pas, ou quasiment pas. Ça commence à se développer. Mais en Italie, par exemple, ils ont plus d'1 million de véhicules qui roulent au gaz. Et en fait, l'avantage, c'est que au niveau des moteurs, ça ne demande pas beaucoup de modifications. Du gaz, on en a. Il faut juste créer les infrastructures pour pouvoir remplir les voitures à gaz. Et ça, par contre, ça permet des distances beaucoup plus longues et ça permet notamment d'assurer tout le fret routier avec des camions qui roulent au gaz. Je vais vite. Hein. Dans l'industrie, on peut avoir la même logique, hein, en réduisant la consommation des sites industriels. Donc, typiquement, il y a des systèmes qui s'appellent la cogénération qui permet d'être beaucoup plus efficace. Surtout, l'important, c'est d'inciter les industriels à faire des objets qui soient recyclables, réparables et durables. Alors ça, c'est un enjeu énorme. Hein. On voit des choses arriver. Mais pour les gros industriels qui ne sont pas du tout habitués à ça, ça va être une sacrée révolution mentale. Une petite parenthèse.
Oui, une petite question plutôt sur l'industriel. Dès qu'on parle en fait de décarbonisation de l'industrie, on pense assez vite délocalisation. Et comment le scénario négawatt intègre ce facteur-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous le prenez en compte et si oui, comment ?
Alors dans une précédente version du scénario, on avait tendance à essayer de relocaliser la production industrielle en France. Voilà, alors c'est pas toujours évident, donc on l'a fait un petit peu moins dans cette dernière version du scénario. Par contre, c'est vrai que ça demande une plus forte implication des industriels qui restent, hein, pour agir dans le sens où nous on le montre. Par contre, c'est vrai que le scénario est franco-français, hein, donc évidemment, les industriels qui vont dans d'autres pays. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais dès lors, vous importez un produit, vous l'importez avec un certain contenu carbone, hein, si j'ose dire, et un contenu énergétique qui est propre au pays où il a été produit. Et là, pour l'instant, on n'est pas rentré à ce niveau de détail pour savoir comment on pouvait le prendre en compte dans nos calculs. Il ne me semble pas.
Peut-être je sollicite Frédéric de Lomo pour une intervention. Stéphane, vous avez parlé de la rénovation des bâtiments en expliquant que ce poste bâtiment, la chaleur perdue, enfin en tout cas ce poste représentait 50% de la consommation, et en précisant que grâce aux rénovations, on pouvait diviser par 4 la consommation d'énergie. Concrètement, Frédéric de Lomo, est-ce que vous... Comme vous êtes déjà sur le terrain à Paris et que vous participez à la rénovation d'immeubles, de maisons, en tout cas, vous êtes auprès des particuliers, est-ce que ça se vérifie, ça ?
Oui, ça se vérifie. Ça ne se fait pas tout seul. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples de rénovations qui sont faites sur Paris avec des baisses de consommation d'énergie qui ne sont pas de l'ordre du facteur 4, mais qui sont déjà de l'ordre du facteur 2, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est là où le scénario négawatt est fort utile, est une véritable boussole pour nous, et notamment on repassera le schéma tout à l'heure, mais sobriété, efficacité renouvelable, en fait aujourd'hui on travaille beaucoup sur les questions de rénovation, et donc là la rénovation, donc mettre de l'isolant, changer les fenêtres, isolant sur les toitures, enfin tout ça va être de l'efficacité énergétique, et souvent on a plus de mal à aller chercher la sobriété avec, c'est-à-dire que si on isole mieux un bâtiment, donc si on fait une bonne efficacité énergétique, normalement on a moins besoin de chauffer et du coup on peut regagner encore plus, Et à l'inverse, dans une passoire énergétique mal isolée, on se retrouve en situation où on doit... en fait, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'on se retrouve, comme on est mal isolé, à devoir encore plus chauffer et encore plus perdre. Donc du coup, je dirais qu'à l'heure actuelle, on arrive plutôt bien à adresser le sujet de l'efficacité énergétique. Sobriété, c'est plus difficile et c'est un chantier pour la suite, on y reviendra. Et le renouvelable, à Paris, reste assez complexe. Et là, Paris, on pourra détailler ça.
En tout cas, on est fiers, quelque part, que le triptyque sobriété, efficacité ait réussi petit à petit à venir dans la société, et on voit de plus en plus d'acteurs qui s'y réfèrent, c'est plutôt une bonne chose. Alors, bon, l'industrie, je ne détaille pas trop. Il y a un point important à voir, c'est que, notamment avec ce qui vient d'être dit sur le bâtiment, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, toute la rénovation et la construction neuve dans le bâtiment, dans le scénario Négawatt, repose beaucoup sur ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, c'est-à-dire on va construire plus en bois, on va isoler avec de la laine de bois, enfin voilà, tous les matériaux qu'on peut tirer de la nature, parce que ces matériaux, ils ont un avantage, c'est que d'abord que naturellement, ils stockent du carbone. Hein, quand vous construisez en bois, vous stockez du carbone, puisque le bois contient du carbone, à la différence des produits qu'on utilise habituellement, le ciment, l'acier, etc., tout ce qu'on peut trouver, le béton, parce que eux, pour les fabriquer, on va... émettre des gaz à effet de serre. Et ça, c'est un point important dans le scénario, parce que toute l'industrie du bâtiment, enfin, l'industrie amont, hein, de construction des matériaux, est fondamentalement changée dans notre chemin, le chemin qu'on propose, puisque en construisant et en rénovant avec des matériaux biosourcés, vous voyez ici, on diminue de 61% le recours aux métaux, 71% au béton et 77% au plastique. Donc en termes d'accès aux matériaux, ça c'est aussi un point important qu'on n'avait pas trop développé, hein, à part ces quelques chiffres dans le scénario 2017, et que probablement on va retravailler pour un prochain scénario avec vraiment un focus particulier sur l'usage des matériaux. Et pour finir sur la demande, dans le scénario, il y a tout un volet sur l'agriculture et l'alimentation, alors qu'on n'a pas fait nous-mêmes, on s'est appuyé sur un autre scénario qui s'appelle After, qui a été créé par Solagro, et qui, lui, se consacre uniquement sur comment changer l'agriculture française et comment changer l'alimentation de manière à ce qu'on émette moins de CO2, hein, parce que quand même l'agriculture, enfin CO2 et méthane d'ailleurs, l'agriculture émet pas mal de gaz à effet de serre, et nos modes d'alimentation, typiquement très carné, avec pas mal de viande, ne sont pas forcément propices à cette transition qu'on recherche. Donc ce scénario-là, je vous invite à découvrir sur leur site, détaille tout ça, montre comment, pareil, sur 40 ans, hein, c'est pas du jour au lendemain, on peut faire évoluer les modes alimentaires et agricoles, qui s'appuient, voilà, sur des tas de choses qu'on connaît déjà, hein, la lutte biologique, l'agroforesterie, par exemple, de manière à avoir un impact environnemental moins fort. Donc tout ce que je viens de vous dire, un peu rapidement, désolé, mais vous voyez, ce sont plein de chemins progressifs pour diminuer notre consommation d'énergie, hein, que ce soit dans le bâtiment, le transport, l'industrie, l'agriculture, etc. Tout ça nous permet de diminuer la consommation d'énergie, je vous dirai de combien tout à l'heure. Donc dans ce chemin où on fait décroître la consommation, on peut en même temps changer les modes de production, hein, vous rappelez les sources primaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on va en parler maintenant. Donc la première des énergies renouvelables qui se développent dans le scénario Négawatt, ce sont les bioénergies. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, la première énergie renouvelable en France, c'est déjà le bois. Hein, je vous rappelle, je vous ai dit, la chaleur, c'est le point le plus important. Donc on parle toujours éolienne, solaire, mais ou hydraulique, hein, aussi. Mais la première énergie renouvelable en France, en fait, c'est le bois. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui se chauffent au bois. Pas forcément de la meilleure manière, hein, c'est sympa la cheminée, mais c'est pas trop top en termes d'efficacité énergétique, mais c'est le bois. Et c'est le bois qui reste la première énergie renouvelable dans le scénario Négawatt. Hein, à chaque fois que vous voyez les courbes, c'est de 2010 l'historique. Au début, c'est la courbe historique. Puis après, c'est nos calculs jusqu'à 2050. Deuxième énergie renouvelable qui vient de ce qu'on appelle la biomasse, hein, les bioénergies, c'est le biogaz qui est en jaune là, sur la courbe. Hein, le bois est en bas en vert. Alors le biogaz, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si ça vous parle. C'est un gaz qu'on obtient par méthanisation, c'est-à-dire tous vos déchets organiques, hein, de nourriture, les déchets organiques qui viennent aussi de l'industrie, de l'agriculture, tous ces déchets, on peut les faire fermenter, si vous voulez. Ils produisent naturellement du gaz, hein, donc une molécule de méthane, CH4, c'est exactement comme le gaz qu'on trouve dans le sous-sol. Et ce gaz, on peut l'utiliser de la même manière que notre gaz qu'on appelle naturel, donc on va plutôt appeler gaz fossile. Voilà. Et ça, nous, on y croit beaucoup. Alors pour l'instant en France, il n'y en a pas des masses. Malheureusement, ça a eu beaucoup de mal à décoller. Pourtant, il faut quand même rappeler qu'on a on a des agriculteurs en France. Voilà. Ils ne vont pas très bien et ça serait un bon moyen de les aider à trouver des nouveaux revenus. On pourra détailler si vous voulez. Donc ça, ce sont alors il y a aussi un peu de biomasse liquide, hein, c'est-à-dire des agrocarburants. Là-dessus, on n'est pas très... On reste sur les productions actuelles. On pense que les biocarburants dits de deuxième génération ne seront pas forcément tout à fait mûrs. Pour être beaucoup développé. Si c'était le cas, tant mieux, ça nous ferait une source en plus, mais on a évité d'être trop optimiste sur ce point-là. Donc ça, c'était les bioénergies qui font d'ailleurs plutôt de la chaleur, ou on va voir pour le biogaz, parce que biogaz, hein, c'est du gaz vert, du coup. Et ce gaz vert, vous l'avez vu, il va pouvoir servir pour les véhicules. Hein. N'oubliez pas, véhicule gaz. À chaque fois que vous entendez véhicule électrique, maintenant, pensez véhicule gaz. Puis vous le dites à vos élus, ça sera une bonne chose. Ça leur y fera penser aussi.
Et pensez marche à pied et vélo.
Bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais la meilleure manière d'être sobre, c'est d'utiliser ses jambes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo électrique non plus.
Et l'hydrogène, alors ?
Alors l'hydrogène, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est peut-être un vecteur énergétique dont vous avez entendu parler. Donc c'est une molécule très énergétique, l'hydrogène, mais voilà, elle est petite, elle est très légère, elle n'est pas facile à manipuler, elle doit être stockée à forte pression. Donc c'est dans le scénario, on ne l'a pas trop pris en compte. On est relativement prudent sur la façon dont ça peut se développer. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'expérimentations. C'est par ailleurs très intéressant. On verra dans la suite du scénario que c'est un vecteur quand même que nous, on va utiliser d'une certaine manière, mais on ne l'utilise pas forcément de manière directe. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, si, faisons des voitures à hydrogène, faisons des trains à hydrogène, faisons des avions à hydrogène. Bientôt, vous aurez votre cuisinière à l'hydrogène et je ne sais pas ce que vous aurez encore à l'hydrogène. Mais honnêtement, techniquement, c'est très compliqué pour l'instant. Donc, nous, on ne l'a pas mis dans le scénario. Si on a une heureuse surprise, tant mieux. Mais comme on l'a dit au début, on essaye d'être réaliste techniquement. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire autant de choses avec l'hydrogène. Enfin, en tout cas, avec de l'hydrogène vert, hein, sous-entendu qu'il est vert. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, l'hydrogène dans le monde, c'est à 98% de l'hydrogène tiré d'énergie fossile. Alors une fois qu'on a parlé un peu bioénergie, on va aussi parler électricité renouvelable. Donc on va enfin parler des éoliennes et du solaire qui fâchent tout le monde, c'est très bien. Donc comment on les fait progresser dans le scénario ? Donc vous voyez là quatre courbes. Celle qui est plate, hein, c'est l'hydraulique. Hein, donc en fait, dans le scénario, ça ne change pas parce qu'il n'y a plus tellement de quoi faire de nouveaux barrages hydrauliques en France. La toute petite qui est en bas, qui ne bouge pas beaucoup, ce sont les énergies marines. Alors on les développe un peu, mais pas trop, parce que certes, il y a un fort potentiel en France, hein, parce qu'on a beaucoup de côtes, notamment côté Atlantique. Mais malheureusement, les gisements sont très difficiles à exploiter. Et pour l'instant, on ne voit pas de vraie réalité industrielle là-dessus. Il y a eu pas mal d'essais et l'eau de mer, il ne faut pas oublier qu'il y a des animaux, il y a de la matière, c'est corrosif, il y a du sel et ce n'est pas cool pour les machines. Donc, bon. Non, alors du coup, ce qu'on développe beaucoup, ce sont en rouge ici l'éolien et en bleu le solaire photovoltaïque. Alors, il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout mis, hein, mais ce sont les principales qui, pour le coup, ont des pentes assez importantes. Hein. Alors, il faut savoir quand même qu'on part d'assez bas en France, voire de très très bas quand même, hein, parce que ça a mis longtemps à se développer. Et on pousse pour que ce soit bien plus utilisé. Alors, pour donner une idée un peu de ce que ça fait dans la réalité, parce que voilà, à chaque fois, on va me dire « Ouh là là, c'est scandaleux, vous allez couvrir le pays d'éoliennes, on ne va même plus voir le soleil, rendez-vous compte, mon brave monsieur. » Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En 2015, il y avait à peu près 5400 éoliennes déjà en France. Et dans le scénario négawatt, au bout de 40 ans, hein, je le rappelle toujours, hein, il y en aurait 18 000 à peu près, terrestres, hein, d'éoliennes terrestres. Donc il faut savoir qu'en Allemagne aujourd'hui, hein, il y a déjà, je vais dire une bêtise, mais entre 20 et 30 000 éoliennes. Donc ça veut dire que l'ambition de la France pour dans 40 ans, c'est d'avoir moins d'éoliennes que l'Allemagne aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, perso, ma religion est faite, si j'ose dire. Voilà, donc il y a pas mal d'éoliennes en mer, hein, 3200 éoliennes, sachant qu'aujourd'hui en France, on en a une, qui est une expérimentation. Voilà, et dans le photovoltaïque, on pourrait faire aussi le calcul par habitant. Ça veut dire qu'il y a pas mal de solaire qui est installé et sur les toitures des maisons, parce qu'on a quand même cet avantage d'avoir des toits qui prennent le soleil, mais également en surface au sol, mais pas que. Voilà, c'est un partage entre les deux. Ouais, je crois que voilà. Alors un petit mot sur le nucléaire, parce que bien sûr, il vous aura peut-être pas échappé que le scénario négawatt n'est pas forcément pro-nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le parc ? En deux mots, c'est un parc qui a été construit en relativement peu de temps. Hein, programme nucléaire français, années 70, grosse accélération dans les années 80. Donc grosso modo, 80% du parc a été construit en 10 ans. Hein, je vous rappelle qu'on a 58 réacteurs, si je ne me trompe pas, en France. Ils avaient été prévus pour 30, voire 40 ans de durée de vie. Donc on arrive pour la plupart aux 40 ans dans les 10-15 ans qui viennent. Donc en fait, l'opérateur, bon, EDF hein, bien sûr, va être confronté à ce qu'on appelle un mur d'investissement, c'est-à-dire qu'il doit d'abord vérifier que ses centrales marchent bien, et il doit les remettre au goût du jour, c'est-à-dire que le goût du jour, c'est quand même Fukushima, il ne faut pas l'oublier, en 2011, et que suite à Fukushima, toutes les normes de sécurité dans le monde sur les centrales ont été élevées. Et donc, toutes les centrales doivent être remises à niveau. Donc ça fait un énorme investissement et voilà, bon, on pourrait en parler longuement, hein, si vous voulez, vous poserez des questions. La question, si on est opérateur industriel, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir autant pour quelque chose que nous, on considère quand même dangereux, hein, c'est quand même pas une technologie entièrement simple à gérer. Voilà, donc dans le scénario, ce que nous, on décide, si on veut, c'est qu'on d'abord, on construit pas de nouveaux réacteurs. Enfin, donc je dis ça quand on l'a fait en 2017. Hein. Donc le réacteur EPR de Flamanville était encore en construction, mais loin d'être fini. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas encore fini. Mais donc, dans le scénario, on ne construit pas de nouveaux réacteurs et on ferme les centrales quand elles arrivent à 40 ans. Ce qui nous permet d'échelonner sur les 10-15 premières années des fermetures. Et donc, normalement, si on avait appliqué le scénario dès l'année 2017, on aurait fermé le dernier réacteur en 2035. Voilà. Alors autant dire qu'on a pris du retard, puisque en France, il y a quand même un sacré lobby qui fait que c'est pas évident.
Juste, je trouve qu'il y a vraiment un chiffre qui est marquant dans ce que tu dis, c'est le 80% des centrales qui ont été construites en l'espace de 10 ans. Souvent, quand on parle de scénario énergétique, de projection un petit peu, ça nous dépasse. On a l'impression que c'est tellement gigantesque qu'on ne peut rien faire. La France, dans les années 80, a su construire 80% de ses centrales en l'espace de 10 ans. Donc oui, il y a des marges de manœuvre. Après, l'enjeu, c'est de savoir les saisir et de savoir orienter ces questions d'investissement qui, de toute façon, vont arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a un projet d'investissement, je crois qu'il est de l'ordre de 50 milliards d'euros sur 6 EPR. Donc ça, c'est déjà des choses... Enfin, les questions d'investissement sont déjà là, quoi. Donc après, voilà, ce que promeut Negawatt, c'est un autre scénario. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces investissements-là, ils vont de toute façon être à prévoir.
Et vous avez chiffré, justement, cette question du nucléaire, puisqu'on entend parler de l'EPR, on sait que pour EDF, ça met visiblement l'entreprise à mal, vu les coûts nécessaires et qui ont déjà plus que débordé, et aussi la question du démantèlement des centrales qui vont devoir être fermées par sécurité, la question aussi des zones devenues plus inondables, hein, et ce qui n'était pas le cas forcément avant, mais avec le réchauffement climatique, certaines zones dans lesquelles sont installées des centrales nucléaires sont aussi, enfin, risquent d'être inondées, d'où le scénario Fukushima. Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, Negawatt va travailler sur le coût et essayer de voir ce que coûterait, par exemple, un investissement plus massif dans les énergies renouvelables par rapport à ce qu'il faudrait mettre sur le tapis pour maintenir le nucléaire en France?
Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est vrai que le scénario, l'histoire qu'on a bâtie au sein de Negawatt, c'est avant tout un scénario technique. Hein. Donc, à chaque fois, c'est un peu le travers des ingénieurs, on va dire. C'est vraiment le scénario technique par excellence où on essaye de bien équilibrer, voilà ce que je dis depuis le début, la demande, la consommation et la production d'énergie. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse économique, financière du projet, ce qui nous est souvent reproché d'ailleurs. Alors sur le nucléaire en particulier, alors évidemment on connaît des gens qui font des estimations, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nucléaire pour donner une idée des chiffres? Si on parle déjà du nucléaire neuf, donc le fameux réacteur EPR, qui avait été promis à 3 milliards d'euros, qui arrivait maintenant quasiment à 12. C'est quand même pas rien, 12 milliards d'euros hein, pour un site. Bon, certes, ce sont des gros réacteurs, mais quand même. Donc là, il y a une sorte de dérapage qu'on a du mal encore à voir si EDF va contrôler. EDF et toute la filière nucléaire va arriver à contrôler. Ces réacteurs neufs qui sont vendus, en l'occurrence, par exemple, en Angleterre, EDF a vendu deux réacteurs qu'il a commencé de construire Les Anglais ont dit OK. Et EDF a vendu à grosso modo 110 euros du kilowattheure. Alors ça ne vous parle peut-être pas, 110 euros du kilowattheure. Mégawattheure, pardon, oui, merci, sinon ça serait très cher. 110 euros du mégawattheure, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on peut comparer? Par exemple, aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, qui pendant longtemps a été accusé d'être très très cher, arrive en France, commence à frôler les 60 euros du mégawattheure. Dans les pays très ensoleillés, Mexique par exemple, on descend à 30 euros du mégawattheure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le solaire photovoltaïque dans le monde est presque trois fois moins cher que le nucléaire. Donc, si vous voulez, et puis on peut rajouter à ça ce que vous disiez, les coûts de maintenance, donc ce que EDF appelle le grand carénage, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, de remettre à niveau toutes les centrales aux critères de sécurité et de sûreté nécessaires. Alors, EDF, le chiffre, ouais, je ne sais plus, autour de 50 milliards d'euros, je ne vais pas dire de bêtises. Bon, y a d'autres experts qui le chiffrent plutôt à 200 milliards d'euros. Alors, tout de suite, on est dans des sommes faramineuses. Hein. Et alors, y a des gens qui, après, dans le monde, essayent de chiffrer ça versus le développement des énergies renouvelables. Bon, alors là, je vous dirais une bêtise si je donne un chiffre, donc je vais pas dire, mais grosso modo, nous, on estime qu'au-delà, par rapport au risque qu'on prend hein, potentiellement avec le nucléaire, le financement vaut le coup. C'est ça que je veux dire. Hein. Et de l'argent, il y en a par ailleurs. Hein. On pourra en discuter après si vous voulez, mais de l'argent, il y en a. Et ce qui est important, ce que disait Frédéric Delhomo, c'est qu'avec l'exemple du nucléaire dans les années 70-80, c'est quand on a la volonté politique, on trouve les moyens de faire les choses. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Alors un dernier petit point sur la partie production du scénario. C'est typiquement la question qui vient à chaque fois. Oui, mais alors vous êtes gentil avec votre éolien et votre solaire, mais bon, le solaire, c'est quand il y a du soleil, l'éolien, c'est quand il y a du vent, et comment vous allez faire quand il n'y en a pas? C'est pas possible, il va falloir des centaines de centrales à charbon pour arriver à faire tout ça, c'est scandaleux. Donc c'est une bonne question, hein, faut pas la rejeter. Donc nous, on montre qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. On a fait simuler le scénario négawatt par le gestionnaire du réseau d'électricité, RTE. Donc on ne peut pas faire plus officiel, c'est une filiale d'EDF. Hein. Il a pris notre scénario, il a pris nos modes de production tels qu'on les a échelonnés dans le temps pendant 37 ans, un peu, 40 ans. Et puis il a vérifié dans son modèle, puisque c'est son rôle officiel, s'il y avait toujours équilibre entre la production et la consommation d'énergie. Hein, parce qu'au niveau de l'électricité, c'est ça l'enjeu, c'est de n'avoir jamais d'écart entre ce que tous les Français consomment et ce que tous les sites de production mettent sur le réseau d'électricité. Et donc il a simulé, entendez bien, il a simulé heure par heure, de 2017 à 2050, tout notre scénario, et il n'y a pas un seul moment où il y a un problème d'approvisionnement, d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Ce qui veut dire que quand c'est bien dimensionné, et je vais vous dire ce que ça veut dire bien dimensionné, un parc de production d'électricité renouvelable peut tout à fait satisfaire la demande. Alors, rappelez-vous, la demande, elle a baissé, hein, ça c'est super important. Mais si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Pour ne pas avoir de souci, il y a deux petites choses. Alors, il y en a une un peu annexe, et on ne le cache pas bien sûr, c'est que dans le scénario, on garde quelques centrales à gaz qui vont fonctionner peut-être quelques heures par an pour vraiment quand il y a une période d'extrême pointe, hein, ce qu'on appelle la pointe de consommation, c'est le moment où vous aurez le plus de consommation d'électricité, et où là, typiquement l'hiver, a priori, s'il continue de faire froid, bon, ça peut se discuter, mais s'il continue de faire froid, une partie du chauffage assuré par des pompes à chaleur demandera d'électricité, et donc il y aura une certaine pointe à résoudre. Donc là, vraiment, c'est quelques heures par an. Mais je vous rappelle que le gaz, en 2050, il est renouvelable. Hein, donc en soi, avoir une centrale à gaz, ça n'a rien de scandaleux. Et point beaucoup, beaucoup plus important que je vais vous détailler maintenant. 5 minutes, voilà, ça y est, ça va être dur, ça va être dur. Oui, c'est le temps
passe.
On
passe la parole quand même
bien
à
sûr,
Frédéric
bien
Delhomo,
sûr.
Les échanges et le public.
Voilà, en deux mots, y a deux points importants sur ce truc, c'est la couleur bleue et la couleur jaune. Voilà. En 2050, quand on aura fait cette transition typique du scénario négawatt, il y aura deux gros vecteurs d'énergie, l'électricité et le gaz. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si je vous mettais le graphe de ça aujourd'hui, ça serait surtout du marron, ça serait surtout des énergies fossiles. Et alors pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez avoir aujourd'hui ces deux réseaux de gaz et d'électricité, hein, gaz c'est le jaune et bleu c'est l'électricité, aujourd'hui ils sont quasiment pas connectés. À part la cogénération peut-être, mais quasiment pas. Par contre, en 2050 et au fur et à mesure, comme on va mettre des véhicules gaz et qu'on va avoir d'autres usages de l'électricité, on va pouvoir créer un lien. Et ça va être quoi ce lien, je vais vous le dire. C'est que quand vous aurez trop de soleil, par exemple l'été, il n'y aura pas trop de soleil, mais vos panneaux solaires, eux, ils vont faire beaucoup d'électricité. Ou quand il y aura beaucoup de vent au même moment, on va se retrouver avec beaucoup d'électricité. Et cette électricité, on ne va pas la consommer en été. A priori, on n'est pas forcément pour un développement extrême de la climatisation. On parle plutôt de rafraîchissement. Donc, il n'y aura pas de pic de consommation d'électricité l'été. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce serait bête de la perdre. Donc, ce qu'on propose, c'est de... Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. On fait de l'électrolyse de l'eau. Alors ça, c'est un phénomène chimique tout à fait bien connu. Donc on prend de l'eau, on met l'électricité dedans, ça fait émerger une molécule d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Donc cet hydrogène, on va le capter, on va le recombiner avec des molécules de CO2, ça tombe bien, on essaye plutôt de le capter que de l'émettre. On va refaire une molécule de méthane, CH4. Désolé si vous n'avez pas fait de chimie, mais voilà, c'est relativement simple à comprendre. Et cette molécule de gaz qu'on va fabriquer l'été avec trop d'électricité, on va la mettre dans le réseau de gaz. Parce que le réseau de gaz, on a une chance en France, c'est qu'il est relativement bien diffusé. Et surtout, on a d'immenses sites de stockage souterrains. Hein, souvent, ce n'est pas connu, mais en France, il y a plusieurs sites de stockage souterrains qui sont creusés dans des cavernes naturelles. Et on peut largement stocker une quantité de gaz qui va permettre de satisfaire nos besoins et pour le transport et éventuellement pour d'autres activités. Un petit peu chauffage, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthanation. Alors ne confondez pas avec la méthanisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, méthanisation, c'est pour les déchets. Méthanation, c'est pour l'électricité excédentaire. Voilà, et comme il ne me reste certainement pas beaucoup de minutes, on va faire le bilan rapide de ce scénario. Hein. Donc gardez en tête progressivité, baisse de la demande, changement de la production vers des énergies renouvelables. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je suis désolé, je vais vous mettre plein de graphes. Mais comme je vois que vous ne dites rien, c'est que vous adorez. Alors il y en a trois, bâtiment, transport, industrie, hein, pour les trois grands secteurs qu'on a décrits tout à l'heure. La courbe bleue, au début, c'est la courbe historique de consommation en France, à chaque fois, hein, de 2010 à grosso modo 2015. Et puis après, vous avez la petite courbe orange là, en haut. Ça, c'est si globalement, il ne se passe rien, si on ne fait pas d'effort. Donc ça descend un petit peu, ça dépend, parce qu'il y avait déjà des lois qui font que c'est incité à diminuer. Mais si vous appliquez le scénario négawatt, vous faites de la sobriété en orange foncé et vous faites de l'efficacité là en un peu plus clair. Et donc du coup, la courbe de consommation calculée jusqu'en 2050, c'est la courbe bleue. Donc vous voyez que dans tous les cas, on divise quasiment par deux la consommation dans tous les secteurs d'activité, avec toutes les dispositions dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est la consommation. Et si on parle production, donc maintenant vous repérez la courbe bleue, c'est l'avenir. On va produire. Donc au début, le marron, c'est un mélange d'énergie fossile et d'énergie nucléaire. Et le vert, ce sont les énergies renouvelables. Et progressivement, dans chacun de ces secteurs, on fait passer la partie renouvelable à presque 100%. Hein. Vous verrez qu'on n'est pas tout à fait à 100%, notamment parce qu'il y a des produits fossiles, typiquement du pétrole, qui, pour l'industrie, de certains produits, on n'arrive pas à les remplacer par autre chose pour l'instant. Peut-être ça viendra. Alors, bon, je suis désolé, hein, je vais faire un peu vite. Je vous passe celui-là, mais c'était pour dire que globalement, la sobriété, c'est important. C'est 28% de l'effort. Alors ça, c'est pas neutre. On en reparlera si vous voulez, mais c'est
pas
neutre.
On va y revenir après dans les questions.
Pour finir, alors, vous rappelez ce graphe de la situation de 2015. Hein, donc ça, c'est la France en 2015. On fait des efforts. On attend presque 40 ans. Et voilà la France en 2050. Donc regardez bien, 2015... 2050, 2015, 2050, 2015, 2050, 2015, 2050. Alors qu'est-ce qui a beaucoup changé ? Bah, les trois postes sont toujours les mêmes, mais vous voyez la taille des carrés, ils ont baissé, divisé par deux. Mais la chaleur est toujours le premier poste de consommation d'énergie. Et puis au niveau des sources primaires, bah, on a supprimé le nucléaire, on a réduit les énergies fossiles à 0,3%, hein, on était à 48%, et bien sûr tout le reste est fait par des énergies renouvelables. Puis vous avez vu, il y a beaucoup moins de pertes. Hein, on n'a plus le gros truc noir qui allait vers le ciel. Voilà. Et puis, bah après, je vais le dire en deux mots, mais je passe les graphiques. la conséquence majeure de ce scénario, donc il y a des conséquences, bon, je ne vais pas dire mineures, mais notamment il y a moins de pollution atmosphérique, il y a moins de pollution au niveau agricole, mais là, la conséquence majeure, c'est ça, c'est qu'on divise les émissions de gaz à effet de serre par plus de 6. Donc pendant longtemps, on nous a dit qu'il fallait les diviser par 4. Nous, on montre qu'on peut les diviser par 6 d'ici 2050. Et la conséquence la plus satisfaisante pour nous, c'est que peut-être vous avez entendu parler de neutralité carbone. Donc c'est quelque chose qui est arrivé dans la loi depuis un an, on va dire, grosso modo. La neutralité carbone, c'est quoi ? C'est l'idée que vos émissions de gaz à effet de serre, s'il en reste, elles doivent être compensées parce que la nature peut absorber. Donc notamment dans les forêts et en partie dans les océans. Mais si on prend que la forêt en France, alors quand je dis forêt, c'est au sens large, hein, c'est toute la biomasse, y compris une partie de l'agriculture, on montre que dans le scénario, ce qui reste d'émissions de gaz à effet de serre est compensé par les puits, ce qu'on appelle les puits de carbone naturels. Donc le scénario négawatt arrive à la neutralité carbone. Et aujourd'hui en France, et puis d'ailleurs depuis plusieurs années, de toute façon, il n'y a aucun autre scénario qui permet d'arriver à ça. Hein, avant les lois qui ont été traduites dans la PPE et la SNBC dont vous parliez tout à l'heure, il y a eu un débat sur l'énergie en 2015. Il y avait soi-disant plusieurs scénarios sur la table, mais en fait, il n'y en avait qu'un seul qui était réellement calculé et solide, c'était celui de négawatt. Et je vais finir par ça, si vous voulez. Ce qui a été pour nous une sorte de victoire, si on veut, c'est que dans cette loi, donc la loi de transition énergétique... pour la croissance verte, voilà, c'est ça son nom exact, les deux premiers articles mettent comme objectif la réduction, la division par deux de la consommation d'énergie en France. Donc la loi, c'est bien beau, le met comme un objectif, elle ne dit pas comment on va y arriver. Bon, nous, on montre comment. Mais au moins, pour nous, c'était une sorte de victoire, c'est-à-dire que l'idée que la transition énergétique ne peut se faire qu'avec une division par deux des consommations a été finalement actée par les pouvoirs publics. Voilà. Et pour nous, c'est pas mal.
Alors je précise pour ceux qui voudraient avoir accès à ce scénario que bien sûr il est sur le site Négawatt et il sera aussi mis en lien sur le site de la BPI, ce qui permettra d'éviter la frustration des schémas dont on n'a pas pu disposer, faute de temps. Frédéric Delhomeau, donc je rappelle que vous êtes directeur Habitat et Rénovation de l'Agence parisienne pour le climat. Concrètement, puisqu'on a compris que vous vous basiez vous aussi sur ce scénario-là pour l'appliquer, le mettre en œuvre, alors sur une ville comme Paris, est-ce que le renouvelable, on a parlé du renouvelable, du biogaz, du solaire, de l'éolien, des matériaux aussi utilisés, parce qu'il faut changer aussi de matériaux moins polluants, donc les biosourcés, voilà, où vous en êtes, faites-nous peut-être un retour d'expérience.
C'est parti, bonsoir. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche. Ça, c'est formidable. Et ça marche en marche arrière aussi ? Oh ! Ça marche qu'en marche avant. Non, ça marche pas, en fait. Ouais. OK. Donc, bonsoir, je m'appelle Frédéric Delhomeau, ça a déjà été dit. Je travaille à l'Agence parisienne du climat. Quelques mots sur l'Agence parisienne du climat. On est une structure qui a été créée on va fêter les 10 ans cette année. Ça a été créé en 2010, mais début de l'activité en 2011. Alors, pourquoi ça ne veut pas ? Voilà. Notre job à l'Agence parisienne du climat, c'est de mobiliser le public pour lui dire que la transition énergétique, oui, c'est possible. Et chacun, à son niveau, on a des marges de manœuvre pour pouvoir agir et faire ce grand scénario négawatt qui a été exposé avant. Pour fonctionner au quotidien, on est très lié au pouvoir public, donc on a été créé par la ville de Paris qui a mis en place une politique climat dont je vous parlerai juste après. Et puis on est soutenu aussi par différents pouvoirs publics, l'ADEME qui est l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, et puis des acteurs comme la compagnie de chauffage urbain, comme EDF, comme Météo France, comme les métropoles du Grand Paris qui chacun nous aide un peu à fonctionner et à mener ces grandes missions qui sont mobiliser le public, conseiller le public, l'informer, et ensuite l'accompagner dans l'action. Donc ça, c'est le job au quotidien. Voilà, donc ces actions au quotidien, vous pouvez venir nous voir une fois par semaine, à peu près, on fait des événements très régulièrement, notamment la Maison des acteurs du Paris durable. Petit sondage comme ça, parce que je ne vois pas trop réagir. Qui connaît déjà l'Agence parisienne du climat ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ah, il y en a quelques-uns. Bon, Pour les autres, apcparis.com et des événements tout au long de l'année pour aider chacun à faire sa part du chemin. Donc les sujets qu'on aborde, c'est des sujets de consommation au quotidien de l'énergie, d'émissions de déchets aussi, et puis des questions de rénovation aussi beaucoup. Donc rénovation du logement et de la copropriété. Tiens, un petit truc, Stéphane, ça m'a marqué quand on parlait tout à l'heure. Quand on parle logement, bien souvent en France, on associe ça à la maison. Et à Paris, évidemment, il y a très peu de maisons. On est surtout dans des immeubles. Et donc l'enjeu, c'est bien de rénover les immeubles. On peut faire des choses à l'échelle d'un logement, mais c'est à l'échelle de l'immeuble. Et justement, c'est ce dont on va parler juste après. C'est de voir un petit peu comment on peut agir à l'échelle de son immeuble, où il y a plein de choses à faire. Alors, si, ça vient, mais doucement. Ouh, très bien. Alors, un petit mot sur le plan climat de la ville de Paris. Toutes les collectivités locales en France qui ont plus de 50 000 habitants ont dû se doter d'une politique locale d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les plans climat. Donc Paris l'a fait un petit peu en avance par rapport à d'autres. Et c'est décliné maintenant aussi au niveau de la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. En quelques mots, voilà les grands objectifs. Donc, si on résume, chaque collectivité en France doit à peu près cibler son scénario négawatt local. En tout cas, poser des objectifs à son échelle. À Paris, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premier point, dire que d'ici 2050, on rénove l'ensemble des immeubles du territoire. Donc on a 30 ans pour tout rénover à un niveau qui est au moins divisé par 2 les consommations d'énergie de ces immeubles. Alors, imaginez le truc, vous sortez, puis vous regardez autour de vous, et vous imaginez des immeubles sur lesquels il y aura... Des nouvelles isolations, des nouvelles fenêtres, des volets bien visibles extérieurs pour éviter aussi qu'il fasse trop chaud l'été, comme on a connu cet été. Donc voilà, donc un tissu urbain qui est vraiment très, très changé. C'est pas la révolution haussmannienne, mais ça s'en rapproche quand même un petit peu en termes d'enjeux.
Est-ce qu'on est concrètement dans la politique de lutte contre les passoires thermiques et donc cette lutte qui avait été initiée du temps où Nicolas Hulot était ministre de la Transition écologique et solidaire ?
Alors, les passoires thermiques, on entend beaucoup parler. Évidemment, si on rénove tous les immeubles, on traite aussi les passoires thermiques. Un point qui est souvent mal compris quand on parle de passoires thermiques en ville, c'est que ces passoires thermiques, elles sont un peu partout, en fait. Dans un immeuble classique parisien, où est-ce qu'on va être mal et on va être pas à l'aise pour vivre et on va mal respirer et on va avoir du mal à se chauffer ? Dans chaque immeuble, ça va être très souvent le rez-de-chaussée, voire le souplex, parce que maintenant, certains ont la chance d'habiter en souplex. Donc, parce que du coup, on se retrouve avec des surfaces sous l'appartement qui ne sont pas isolées. Et de l'autre côté, on va voir les derniers étages, donc la chambre de bonne, le grand classique, placée sous un toit en zinc, souvent non isolé, et qui a un magnifique effet poêle à frire l'été. Et donc, c'est bien pour ça que je parlais bien d'immeubles et pas de... logement. Si on veut traiter ce sujet-là, il faut traiter les immeubles. Et donc, la copropriété, on y viendra après, mais c'est un mode de vie bien particulier, avec des décisions bien particulières qu'il s'agit de traiter et de prendre en compte dans sa complexité. On sait que la vie en copropriété n'est pas toujours très simple. Donc, des immeubles 100% éco-rénovés, pour diviser par 2 la consommation du parc. Ensuite, un objectif de dire qu'il faudrait 20% au moins des toitures parisiennes équipées en panneaux solaires, donc solaire thermique ou photovoltaïque. Et puis par ailleurs, une fourniture de l'énergie grâce au scénario Negawatt qui soit 100% énergie renouvelable. Donc Stéphane l'a bien expliqué, le gros du sujet quand on parle consommation d'énergie sur un territoire, c'est la chaleur. Or à Paris, on a plusieurs modes de chauffage, mais notamment le chauffage urbain qui alimente une part non négligeable du parc, je pense de l'ordre de 15 à 20% du parc au moins. Et qui peut du coup, donc c'est de l'eau chaude qui passe dans les tuyaux et qui passe partout dans la rue, dans la ville, et qui peuvent être alimentés par différents vecteurs, dont différentes sources d'énergie. Et donc là, l'enjeu, c'est de passer tout ça en renouvelable. Donc, je vous le disais, le scénario négawatt là, que j'ai remis ici, c'est vraiment une boussole. Enfin, franchement, s'il y a une chose à retenir de ce soir, c'est les 3 étapes, quoi. Parce que scénario négawatt, en fait, il pose une méthode qui s'applique à tous les échelons, que ce soit une échelle internationale, mais aussi au quotidien chez soi, quand on a des choix à faire en matière d'investissement. Sobriété, ça va être, si on le résume de façon très prosaïque, ça va être faire des choix pour qu'il n'y ait pas l'énergie qui tourne quand on n'en a pas besoin. Donc, par exemple, ne pas avoir un appartement qui chauffe à 21 degrés quand on n'est pas chez soi pendant 8 heures de la journée quand on travaille. Donc ça, c'est un exemple typique de sobriété. l'efficacité. C'est-à-dire, s'il faut bien avoir de l'énergie, consommer de l'énergie à un moment donné, autant l'utiliser de la façon la plus efficace possible. Un symbole classique de ça, c'est la LED. Une LED vous éclaire au niveau souhaité, en consommant bien moins qu'une lampe ex-basse consommation ou d'autres types d'éclairage. Et une fois qu'on a fait ça, on avait déjà fait le gros morceau du sujet, on a aussi gagné pas mal d'argent. Et donc du coup, on peut, si on a l'occasion, si on a un peu d'argent disponible, soit installer du renouvelable chez soi, ce qui est souvent assez compliqué, on y reviendra sur Paris. Mais sinon, il y a aussi possibilité d'investir dans des systèmes d'investissement participatif pour aller avoir ces 10 mètres carrés de photovoltaïque qui sont installés à un endroit qui est peut-être plus facile que sur son toit, on a des difficultés.
Est-ce que c'est concrètement ce rôle que vous remplissez aussi auprès des citoyens, des particuliers ? C'est de les guider parce qu'il y a des aides possibles. Donc on peut avoir un investissement potentiel, mais on n'a pas toujours, selon les foyers, la possibilité d'investir autant. Et si j'ai bien compris, il ne s'agit pas de faire une partie, il vaut mieux isoler plus massivement et rapidement que d'attendre étape par étape. Hein.
Alors ça, c'est un grand débat, une grande controverse du moment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, nous, notre job au quotidien, c'est d'aider les gens qui sont parfois un peu perdus par rapport à ces sujets-là à gérer ses priorités. Donc des priorités quand on a un investissement à faire, quand on a un déménagement à prévoir. Gérer ses priorités, je pense, c'est une grande question qui se pose tout le temps, et sachant qu'il y a des moments dans la vie où on a des grands choix à faire et on essaie de... C'est plutôt pas mal si on peut prendre en compte ces questions d'énergie à ce moment-là. Je pense notamment quand il y a un déménagement, quand on a un enfant qui arrive à la maison. Ça, c'est des moments qui n'arrivent pas tout le temps et qui peuvent vraiment orienter. Au moment où on a à choisir sa localisation de travail par rapport à sa localisation d'habitat, là aussi, ça va être impliqué ou pas une voiture ou trois voitures ou zéro voiture chez soi. Oui, c'est des moments comme ça où on aide un peu à éclairer et à se dire « posons-nous les bonnes questions au bon moment ». Donc c'est du conseil. Très concrètement, quand on parle travaux, on apporte trois types de conseils. On apporte un conseil technique. Qu'est-ce qu'il faut chez vous ? Est-ce qu'il faut changer les fenêtres ou est-ce qu'il faut changer les radios électriques ou les deux ? Conseil technique pour voir un peu quelles sont les priorités chez soi. Conseil financier. Combien ça va me coûter cette affaire ? Quelles sont les aides disponibles ? J'ai déjà un devis, est-ce qu'il est dans les prix ou pas ? Donc le conseil financier. Et puis enfin, on oriente vers des professionnels pour aller plus loin. Vous, il vous faut un architecte. Vous, il vous faut un bureau d'études. Vous, il vous faut un vendeur de fenêtres. Enfin voilà. Donc on a des listes là-dessus et on va aider à les gens à avancer, à faire leur petite transition énergétique. Alors maintenant, je voudrais zoomer sur un sujet. On ne pourra pas parler de tout ce soir. Un sujet qui est assez fondamental, qui est celui du bâtiment et plus particulièrement sur la région parisienne, qui est celui de la copropriété. Le chiffre a été donné tout à l'heure. Le bâtiment sur Paris, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre et je crois que c'est plus de la moitié des consommations d'énergie du territoire. Donc c'est un sujet majeur dans lequel on va retrouver pour plus d'une moitié la question du logement. Le logement sur Paris et là plus largement en Ile-de-France, c'est dans une grande partie des cas du logement collectif. La maison individuelle est un sujet assez mineur, en tout cas sur Paris, ça c'est clair, et même au niveau francilien. Et quand on parle après logement collectif, la plupart du temps, à peu près 20% du temps, on est sur du logement social, donc avec un bailleur social. Paris Habitat, RIVP, Logicien, pour ceux que vous connaissez peut-être. Soit vous êtes dans le privé. Et donc, une fois que vous êtes dans le privé, vous habitez dans une copropriété. Et donc, cette copropriété, l'enjeu, on l'a dit, il s'agit de rénover. Il s'agit de réduire fortement ces consommations de gaz à effet de serre. Donc, juste peut-être là-dessus, un petit mythe aussi, qui je trouve très marquant, c'est que souvent, quand on parle logement, on associe ça à la maison individuelle. Quand on parle de déplacement, on associe ça automatiquement à la voiture individuelle. Et ça, je pense que ça change, mais quand on parle de consommation, on associe ça au supermarché. Donc là, il y a un peu un triptyque de vie qui est celui des Trente Glorieuses, dont on est plutôt déjà sorti depuis pas mal d'années, mais qui reste quand même très très prégnant dans les esprits, qui est maison, plus deux diesel, plus supermarché. La copropriété, c'est 30% du logement français, et il y a quasiment autant de propriétaires occupants en appartement qu'en maison en France. Donc voilà, la copropriété, c'est pas un tout petit sujet. Alors, je vous montre des exemples pour être un peu plus concret. Là, vous voyez une petite carte qui est accessible sur notre site internet qui s'appelle la carte des copropriétés rénovées. Et vous voyez, chaque point est égal à une copropriété, un immeuble qui a fait une rénovation. En bleu, c'est les meilleurs. C'est ceux qui ont fait des niveaux les plus intéressants. Tout le monde n'y arrive pas encore aujourd'hui, mais on a sur Paris, dans ce Grand Paris, on a une centaine de copropriétés. Donc on a documenté, vous pouvez avoir les informations en ligne pour voir ce qu'ils ont fait comme type de travaux, combien ça leur a coûté, quel type d'immeuble c'est, combien il y a de logements, quels ont été les niveaux d'aide, etc. Donc aujourd'hui, on a, pour répondre à votre question, on a des références. Et ça, c'est sans doute le grand acquis des 5 à 10 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, les rénovations, elles se font, et elles se font pas une ou deux, elles se font de façon très régulière. Et par contre, il y a un enjeu gigantesque de saut d'échelle. Parce que ce qui est aujourd'hui encore exceptionnel doit devenir la généralité dans les toutes prochaines années.
Donc ça, c'est ce que ça a coûté, mais aussi, est-ce que vous renseignez le gain ? C'est-à-dire, on investit, mais ensuite, on récupère, j'imagine, puisqu'on dépense moins, puisqu'on est mieux isolé, puisque voilà, il y a un gain pour les foyers.
Donc ça, on le documente aussi, pas sur les 100 petits points que je vous montre ici, mais on a notamment tout récemment réalisé une étude avec des ingénieurs qui sont allés mesurer les consommations avant, après rénovation, qui ont regardé est-ce que le compte y était, qu'est-ce qui manquait et qu'est-ce qui avait amélioré. Je ne peux pas vous dire que tout se fait tout seul. Clairement, il y a des gains. Après, bien souvent, on pense qu'aux gains d'argent. C'est fou, parce qu'on est pécunier dans cette société. Donc évidemment, il y a des questions financières qui sont très très importantes, mais il y a aussi des gains essentiels, notamment sur les questions de santé. Enfin, quand on parle des passoires énergétiques, concrètement, c'est des gens qui... Je crois qu'on a eu une surmortalité de plusieurs milliers de personnes encore cet été en épisode caniculaire parce que les immeubles, les apparts étaient invivables, quoi. Donc il y a un enjeu de santé qui est très important. Et là, on parle encore que d'énergie, mais après, on pourrait aussi parler plus globalement, notamment de qualité de l'air, parce que les questions d'énergie sont très liées aussi aux questions de qualité de l'air. Et là encore, il y a des gains pour la société qui sont, et pour soi-même qui sont extrêmement considérables. Allez, quelques petits exemples. L'année dernière, on a fait un petit concours qui s'appelle Trophée Coach Copro. Coach Copro, c'est le nom un peu de la... De toutes les actions qu'on fait pour les copropriétaires. Et donc là, je vous montre 4 photos de copropriétés assez exemplaires sur Paris et sa région. Vous voyez la première là sur votre gauche, c'est la copropriété Résidence de la Reine qui est à Boulogne, dans l'entrée de Boulogne. Un immeuble tout à fait typique du 30 Glorieuses, la tour, quoi, la tour d'entrée de ville. Je vous ai montré la photo après. J'aurais dû vous montrer aussi la photo avant parce qu'on avait un immeuble qui était quand même sacrément moche. Et sur lequel, donc qu'est-ce qu'on a fait sur cet immeuble-là ? Alors là, tiens, je vais me lever, ça va me faire du bien aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Faudrait regarder les photos plus en détail, mais en fait, on a remis une façade sur ce bâtiment-là. Avant, on avait un bâtiment béton brut, grisâtre, avec des coulures de... Voilà, c'était pas très joli. Donc on a remis un mur par-dessus, en rajoutant des fenêtres, en ajoutant des stores extérieurs, qui se règle automatiquement en fonction des questions d'ensoleillement, sachant que vous doutez bien que là, je crois que cette façade-là, elle est pleine ouest. Donc autant vous dire que ça chauffait pas mal l'été. Donc voilà, on a surimposé une façade. On a une toiture, là, je ne voulais pas montrer, mais qui a été entièrement végétalisée avec la création d'un accès. On voit qu'il y a des garde-corps qui sont maintenant obligatoires en copropriété. Donc maintenant, les heureux habitants de cette tour peuvent accéder au toit et ont une terrasse plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là-dessus ? Je crois, oui, végétalisation, travail sur la ventilation. Enfin voilà, en gros, on travaille sur toute l'enveloppe, la ventilation, et puis après, on rajoute des choses, encore d'autres choses sympas. Donc ça, c'est la copro de Résidence de la Reine. À côté, vous en voyez une autre qui est dans le 15e arrondissement, rue Vouillé. Pareil, donc un traitement complet de l'enveloppe du bâtiment, des ventilations. Le petit plus ici, c'est du photovoltaïque. On a rajouté une toiture, bon, c'est une technique qu'on appelle le sarking, pour ajouter de l'isolation par-dessus en toiture. Et quand on rajoute ce genre de toiture, bah, ça ne coûte pas plus cher de mettre du photovoltaïque, donc autant en mettre. C'est un petit plus tant au niveau des consommations des communs de l'immeuble que aussi au terme de valorisation immobilière. Ça, c'est un point qu'il ne faut jamais trop perdre de vue, c'est qu'un bâtiment comme ça, il est vachement plus sympa et il se vend beaucoup mieux qu'un bâtiment qui n'a pas bougé, qui est resté dans son jus depuis 70 ans. Deux autres exemples pour dire que la rénovation en copropriété, ce n'est pas qu'un truc de riche. La copropriété Hélène Boucher, là, on est sur un immeuble qui est dans la région de Roissy. Alors, je n'ai plus le nom de la commune, excusez-moi. Donc, secteur très paupérisé, tout petit revenu dans cette copropriété d'une trentaine de logements, donc c'est un petit immeuble. Sur lequel il y a des aides qui étaient nettement plus importantes que ce qui a pu être accessible pour les précédents, du fait des niveaux de revenus des occupants. Et donc là, je crois qu'on dépasse le 50% de subvention sur cette opération. Donc, ce qui fait qu'en gros, une opération, là pareil, hein, c'est peut-être un peu moins visible, c'est un bâtiment qui a moins de caractère, mais toute l'isolation par extérieur n'a pas coûté plus cher que si ça avait été un simple ravalement. Donc quelque chose d'assez gagnant. Et puis encore une autre, Stephenson. Voilà. Sachez qu'il y a des dispositifs, notamment sur Paris, qui existent, comme j'ai mis le petit logo. Éco-Rénovons Paris, c'est le dispositif de la ville de Paris qui aide à la rénovation des immeubles. Alors, on a beaucoup parlé de technique, et je voulais commencer par là pour montrer un peu de quoi on parle sur un immeuble. Mais je pense que le sujet, il est beaucoup financier et surtout passionnément sociétal, avec un enjeu énorme qui est de faire bouger les pratiques de tout le monde. Alors sur le bâtiment, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, si on raisonne un peu marché, il faut qu'il y ait une demande et une offre. La demande, c'est des copropriétaires, des habitants qui doivent être demandeurs de cette rénovation. Bien souvent, c'est vécu comme un peu la tuile quoi, de rénover, c'est que ça coûte cher et on ne voit pas tout, forcément très bien tous les gains qui sont induits par une rénovation. Donc il y a besoin d'avoir une demande des copropriétaires, des occupants des immeubles. Si vous êtes là, j'imagine que ce n'est pas complètement par hasard, vous êtes un petit peu sensible à ces sujets-là, eh ben, il faut faire pression, il faut faire monter ça au syndic, il faut dire oui, on a besoin d'avoir des immeubles qui soient ceux d'aujourd'hui et avec un impact environnemental bien moindre. Donc une demande et une offre. Et côté offre, il y a aussi tout un travail à mener avec les différents professionnels, alors là je parle principalement des professionnels du bâtiment et de l'immobilier, pour les acculturer à ce que c'est qu'une rénovation. Aujourd'hui, tous les architectes ne sont pas encore formés à ce que c'est qu'un immeuble basse consommation. Les syndics vivent ça encore assez difficilement d'avoir une rénovation à gérer parce que ça veut dire des conflits, ça veut dire des suppléments de boulot et qui ne sont pas forcément payés comme il se doit. Donc voilà, donc nous, c'est le travail qu'on fait à l'APC, c'est de travailler sur chacun des parties prenantes de ce grand travail d'équipe qui est le sujet de la transition énergétique pour aider à faire un pas de plus, à faire un pas pour peut-être sortir de sa zone de confort et du quotidien pour réussir à changer et à faire les choses mieux.
On va accélérer un petit peu pour au moins pouvoir donner la parole au public.
Ouais. Et je termine juste là-dessus. Juste pour vous dire que nous, ce qu'on constate sur Paris, c'est que deux acquis, trois défis. Deux acquis, c'est que si on regarde il y a 10 ans, il y avait quelques militants qui s'énervaient dans leur coin. Il y avait des gens comme Negawatt qui créaient des scénarios qui devaient être 15 fois plus ingénieurs que les autres ingénieurs parce que pour prouver que c'était réaliste et qu'on pouvait faire des choses en matière de transition énergétique. Ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a vraiment bougé dans notre société et avec une concordance qui est en train de se faire entre les différents échelons de politique publique. Au niveau communal, on a le plan climat et qui est aligné sur les accords de Paris. Donc ça, aujourd'hui, on l'a. Et quand même, à tous les niveaux, on commence à se rendre bien compte de l'enjeu et des objectifs qu'il y a à tenir. Donc ça, c'est vraiment un gain qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Et l'autre gain aussi, c'est qu'on n'est plus, en tout cas sur la plupart de nos sujets en matière d'énergie, on n'est plus sur de l'innovation pure ou de l'expérimentation. Et je pense que ça, on est très concordant sur nos propos. Tout ce qu'on vous montre, c'est des choses qui existent déjà, qui fonctionnent déjà, qui sont, on parle souvent de low-tech en ce moment, c'est un peu à la mode comme terme. Il n'y a pas grand-chose de tout neuf à inventer. Alors s'il y a des nouveautés qui arrivent en plus, des innovations qui viennent en plus, comme on parlait de l'hydrogène, superbe nouvelle, ça sera encore mieux. Mais déjà maintenant, on a des choses qui fonctionnent et il s'agit de faire le saut d'échelle. Et donc ça, c'est les défis. Et les défis sont clairement financiers sur nos sujets. Parce que, par exemple, quand on parle de rénovation, on peut avoir une rentabilité, mais c'est au moins une rentabilité longue. Et pour cela, il faut avoir des facilités de financement pour pouvoir engager des investissements qu'il faut faire maintenant. Et c'est pour ça que quand on regarde les années 80 avec le nucléaire, je trouve que c'est un truc intéressant parce que c'est de montrer que finalement, ces capacités d'investissement, elles sont tenables. Un exemple, un chiffre. On a chiffré combien coûterait la rénovation de toutes les copropriétés, donc ce qu'on a dit tout à l'heure. On rénove toutes les copropriétés de la métropole du Grand Paris. Alors c'est un calcul de coin de table, mais qui est assez solide. On est à 40 milliards d'euros d'investissement. 40 milliards d'euros, c'est ça y est, c'est bien moins que l'investissement fait sur le Grand Paris Express. Grand Paris Express, c'est 60 milliards à peu près. Et comme souvent dans les travaux, ça va augmenter après. Nous, notre calcul de coin de table, qui mériterait d'être consolidé, en tout cas, il part de ce qu'on voit déjà sur le prix des rénovations. Donc finalement, on n'est pas, à la fois, ça semble gigantesque, et en même temps, on a déjà les marges. Donc ça, c'est le sujet financement et le sujet du saut d'échelle. Donc partir de ce qui marche déjà et s'en inspirer pour aller beaucoup plus vite et accélérer. Et donc pour cela, c'est pour ça que je vous ai montré toutes ces références. Si vous êtes intéressé par le sujet, venez nous voir et on peut vous montrer tout ce qui se fait déjà de bien à côté de chez vous et qui ne demande qu'à être fait pareil ensuite. Voilà, j'arrête là.
Alors, je vous propose les uns les autres de prendre la parole. Moi, j'aurais bien d'autres questions en réserve, mais je suis sûre que vous les avez dans la tête. Donc, autant vous laisser libre de poser les questions à Stéphane Signoret ou à Frédéric Delhomo. Peut-être qu'un micro va circuler, voilà, à votre disposition.
Oui, vous avez fait un scénario pour la France. Est-ce que vous avez une réflexion pour un scénario pour l'Europe ?
Alors effectivement, le scénario Négawatt, comme je l'ai dit, est franco-français. On est en train d'essayer d'élaborer quelque chose au niveau européen, mais on ne veut pas le faire tout seul, parce que si les Français qui réfléchissent pour l'Europe, vous voyez, dans l'histoire, ce n'est pas toujours très bien vu. Donc en fait, on est en train de prendre des liens avec plusieurs organismes dans plusieurs pays pour essayer. Alors le problème, c'est que Négawatt reste une petite association, avec beaucoup de bénévoles, mais voilà, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on est en train de construire ça. On ne sait pas, voilà, est-ce que ça va aboutir dans un an, dans deux ans, pour essayer de donner quelque chose de similaire au niveau européen. Mais comme on veut le faire avec les gens de chaque pays, il faut qu'on trouve dans chaque pays des interlocuteurs qui ont au moins un mode de pensée proche du nôtre. Parce qu'il ne s'agirait pas de décalquer bêtement le scénario Négawatt sur les autres pays. Chaque pays a un parc de logements différent. Bon, au niveau des voitures, on va dire, grosso modo, c'est à peu près la même chose, mais l'industrie est différente, l'agriculture n'est pas la même. Voilà, enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, on y travaille.
Moi, je vais vous poser une question par rapport donc, au scénario 2015. Il y avait 160% en production, 100% en consommation, donc ça veut dire une conversion de 1,6 entre énergie primaire et énergie finale. Avec la réglementation RE 2020 qui arrive, qui propose, de base, le coefficient de conversion est de 2,58 entre l'ELEC et EF-EP. Je voulais savoir, du coup, concrètement, est-ce qu'on est mieux de conserver un coefficient de conversion entre la production d'énergie et la consommation d'énergie électrique aussi haut que 2,58, ou est-ce que de le diminuer, ça a quand même du sens ?
Alors, c'est une question un peu technique. Hein. Comment je vais l'expliquer ? Donc, en fait, vous avez vu que toute l'énergie primaire que vous avez au début, le temps qu'elle soit produite, transformée, distribuée, qu'elle aille jusqu'à chez vous, qu'elle vous serve effectivement, il y a des pertes. Et les plus grosses pertes qu'on a, c'est au niveau de la production, selon le mode de production. Donc, en fait, dans les calculs théoriques qu'on utilise dans le secteur d'activité, il y a ce qu'on appelle ce coefficient d'énergie primaire, finale, où on fait un rapport et qui, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, a été fixé à 2,58. Donc, en fait, depuis, quasiment les années 70, il est à 2,58 parce qu'il se référait au parc de l'époque en fonction des rendements, notamment des centrales à charbon de l'époque. Voilà. Le 2,58, il vient de là. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai, quand on ne l'explique pas, c'est difficile. Donc mécaniquement, quand notre parc de production va évoluer au fil du temps, ce coefficient va changer. Et je n'explique pas le détail, mais grosso modo, il va baisser. Voilà. Alors les pouvoirs publics aujourd'hui, hein, notamment dans le cadre de la PPE et la SNBC, et des réglementations à venir pour les bâtiments neufs, souhaitent changer ce facteur, ce chiffre. Alors nous, on leur dit, vous êtes gentils, mais prenez le chiffre actuel d'aujourd'hui. En fait. Et selon les calculs du ministère lui-même, en fait, le chiffre aujourd'hui ne devrait pas être à 2,58, il devrait être à 2,7. Mais en fait, 2,58, ça les arrange parce que ça avantage le chauffage électrique. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi depuis longtemps comme ça. Et là, le ministère, comme par magie, vient de nous dire « Alors écoutez, comme dans 15-20 ans, le chiffre sera plus bas, on va le mettre plus bas tout de suite. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va encore plus favoriser le chauffage électrique, alors qu'on sait très bien que c'est une très mauvaise solution, puisque ça a un rendement très mauvais. Et du coup, pour les futures constructions neuves, ça risque de changer complètement le profil de consommation des bâtiments neufs. Donc nous, on a crié alerte, et puis d'autres professionnels avec nous. Il y a une pétition qui est sortie, qui a été signée par plus de 2000 professionnels, en disant « ne faites surtout pas ça ». D'abord, c'est faux physiquement, scientifiquement, c'est faux. Et en plus, ça amène à une catastrophe au niveau des logements neufs. Et malheureusement, Ah, peut-être que tu as un avis. Les pouvoirs publics ont maintenu de le baisser à 2,3. On ne comprend pas pourquoi.
On est assez aligné avec Stéphane, mais juste pour un tout petit peu préciser, quand on dit ça favorise le chauffage électrique et ça, c'est pas bien, c'est pas juste parce que c'est l'électrique et c'est pas bien. C'est parce qu'un chauffage électrique, quand on le pose, quand on l'installe, il n'autorise aucun changement d'énergie plus tard. C'est-à-dire que quand vous mettez un radiateur hydraulique, comme vous avez peut-être dans vos immeubles, ou bien un plancher chauffant hydraulique, on le connecte avec ce qu'on veut comme énergie. Donc on peut très bien le connecter avec une chaudière électrique, peut-être plutôt une pompe à chaleur, du gaz, du réseau de chaleur urbain, etc. Donc en fait, si le choix aujourd'hui n'est peut-être pas simple à faire en faveur de la solution la plus favorable, on se maintient des marges de manœuvre. Et nous, c'est quelque chose, enfin, nous, à la PC, on travaille beaucoup sur les questions de rénovation et c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près un tiers du parc de logement qui est en radiant électrique, ou enfin en tout cas en grille-pain, quoi. Et pour cela, c'est extrêmement compliqué d'aller retrouver une autre façon de chauffer, parce que ça veut dire reposer des tuyaux, des gaines qui coûtent et qui sont techniquement, enfin, c'est un chantier pas très sympa à gérer, quoi. Et donc, du coup, c'est un. Là, pour le coup, on tue un gisement pour plus tard. Et voilà, c'est pour ça qu'on est aligné sur ce point-là.
Alors j'en profite quand même parce qu'il y a une question aussi qui émerge dans la plupart des esprits ces derniers temps. C'est aussi la jungle des contrats, que ce soit les contrats avec les fournisseurs d'électricité ou de gaz. Et on a dénoncé des abus. Est-ce que l'un et l'autre sur vos sites, il y a moyen d'y voir clair et de se dire, ben, quitte à changer d'opérateur, est-ce que certains sont plus vertueux, sont plus rassurants et dans toujours cette politique aussi de transition énergétique ?
Alors si je parle pour Negawatt, évidemment on va privilégier un fournisseur. Donc vous avez le choix aujourd'hui. Hein. Historiquement vous n'aviez que EDF pour l'électricité et à l'époque Gaz de France pour le gaz. Voilà, mais l'ouverture à la concurrence est passée il y a quelques années.
EDF, avec des démarchages, il faut le dire, illégaux et qui ont été punis.
Fort abusifs. Voilà, fort abusifs. Voilà, et donc l'ouverture à la concurrence fait que vous avez accès à plusieurs fournisseurs. Donc vous avez toujours EDF, vous avez Gaz de France qui est devenu Engie, et puis vous avez une myriade de plus ou moins gros fournisseurs d'électricité ou de gaz ou des deux. Enfin voilà, ça dépend. Donc certains vont vous dire mon offre est verte. Alors, je ne vais pas détailler le pourquoi du comment du vert, mais en l'occurrence, ce n'est pas super toujours vert. Donc, de notre point de vue, Negawatt, le seul, il n'est pas tout seul, mais quasiment le seul historiquement qui a bien fait les choses, c'est Enercoop. Donc, si vous avez une vraie volonté d'être vert, vous pouvez aller chez Enercoop, mais ça sera un peu plus cher. Voilà. Alors, si je ne prends pas la casquette Negawatt, mais plus une casquette d'acteurs du secteur de l'énergie, sachez quand même qu'en France, il y a une institution qui s'appelle le Médiateur National de l'Énergie, qui est là pour régler vos litiges avec les fournisseurs, notamment, pas uniquement, mais beaucoup. Et ce médiateur, donc qui a vraiment une fonction officielle, hein, publique, indépendante, a mis en place un comparateur d'offres. Alors, je ne sais plus quel est le nom du site, mais si vous faites comparateur d'offres, médiateur national, vous allez le trouver. Et donc, lui, il recense tous les fournisseurs.
Energie-info.org, je crois.
Ouais. À partir de energie-info.org, vous le trouverez. Et il les recense. Vous mettez votre code postal, vous dites à peu près ce que vous voulez, et ils vont tous apparaître avec leur prix, etc., etc. Voilà. Mais effectivement, bon, ça, c'est une question de marché, de concurrence, et comme vous le disiez, il y a des problèmes de démarchage, notamment de pratiques commerciales pas très clean, quoi.
Une autre question, peut-être ?
Oui. Bonjour. Je sais pas si ça marche.
Ça marche, on vous entend.
Bon, j'ai deux questions, ou plutôt demandes de confirmation, si j'ai bien compris. Quand vous avez fait l'étude de votre scénario auprès d'EDF, je voulais savoir la concordance besoin-production. Est-ce que ça prenait en compte le stockage ?
Alors, je réponds tout de suite.
Oui, parce qu'après, j'ai une deuxième question.
Ça m'invitera d'oublier. Alors, dans le scénario Negawatt, il y a un petit peu de stockage batterie, mais pas tant que ça. Pour l'instant, en tout cas, au regard de ce qu'on voyait en 2015-2016, on n'était pas trop sûr du niveau de développement du stockage par batterie chimique. Hein. Donc, du coup, ça, a priori, c'est quand même quelque chose qui commence à prendre un peu plus, notamment par le biais du véhicule électrique. Et on avait surtout le stockage... En fait, je fais une parenthèse stockage, hein, j'en profite, la question me le permet. Quand vous parlez stockage, en fait, il faut vous penser sur quelle durée vous stockez. Donc une batterie chimique, typiquement celle qui est dans votre téléphone, bah, vous voyez bien, ça ne dure pas une semaine. Donc les batteries, le stockage par batterie, ça va être du stockage à l'échelle de la journée, grosso modo. Après, on peut avoir des stockages à l'échelle de la semaine. Ça va être plutôt ce qu'on fait déjà, des barrages hydrauliques, ce qu'on appelle des stations de turbinage-pompage. Donc, vous avez un bassin en haut, un bassin en bas. Donc, la nuit, vous faites remonter l'eau et le jour, vous la faites redescendre. Donc là, vous consommez de l'électricité quand vous montez et vous produisez de l'électricité quand ça descend. Ça, c'est un moyen de stocker, en fait, à partir de l'eau. Donc ça, on peut le faire à l'échelle de la semaine. Ça se peut gérer très facilement. Et le vrai enjeu dans le scénario négawatt, c'est le stockage intersaisonnier, c'est-à-dire entre l'été et l'hiver. Et donc, c'est ce que quand je vous parlais de la méthanation avec l'électrolyse de l'eau, etc., et l'électricité qui se transforme en gaz, ben ça, c'est une manière de stocker l'électricité de l'été en gaz pour l'hiver, en partie ou pour les usages transport. Donc, l'équilibre, en tout cas sur la partie électricité, prenait en partie cette partie stockage.
D'accord, ok, ouais, c'est clair. Justement, je voulais rebondir sur la méthanation. Et ma deuxième demande de précision, c'est sur... on veut zéro émission de gaz à effet de serre. Quand on brûle du gaz, on va en émettre. Du coup, c'est un scénario qui se conjugue avec celui dont vous avez parlé, AFTER, peut-être, éventuellement. C'est de créer peut-être plus de zones de végétalisation pour la production notamment de matériaux isolants, j'imagine, biosourcés, c'est ça? Et puis recapter le CO2 pour la méthanation, c'est un peu l'idée?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Donc, mécaniquement, si vous brûlez du gaz, c'est sûr que, qu'il soit d'origine fossile ou qu'il soit d'origine, je vais appeler ça naturel maintenant, mais enfin bio, on va dire, de bioénergie. De toute façon, mécaniquement, vous brûlez quelque chose qui est carboné, donc ça émet du CO2. Voilà. Mais selon que vous le prenez dans le sous-sol, là où il a été fait il y a des millions d'années, ou si vous le prenez dans le bois qui a poussé les 30, 40 dernières années, alors on estime que sur l'échelle de temps courte, qui est celle d'une rotation, alors soit d'une culture ou d'une forêt qui pousse, on estime qu'il n'y a pas de production de CO2. Alors c'est une question technique un peu compliquée, dont je ne suis pas spécialiste, parce qu'il faut savoir, est-ce que sur l'arbre, sur sa durée de vie, quand il a poussé, combien il a capté, et quand on brûle, combien il émet, etc. Mais par principe, aujourd'hui, on dit que ce qui a poussé récemment et que vous brûlez, grosso modo, ça s'équilibre entre ce qui a été capté et ce qui a été émis à l'atmosphère.
Autrement dit, les forêts françaises poussent plus vite qu'on ne les coupe.
Alors, disons que ce que ça veut dire, c'est que dans notre scénario, même si on utilise des bioénergies, elles ne sont pas comptées dans les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, c'est surtout ça le point important. Par contre, la forêt, si on a des pratiques culturales qui permettent de faire pousser plus souvent et de manière plus grande des plantes, va mécaniquement augmenter le puits de carbone naturel de la France. Mais alors ça, là aussi, alors c'est une question très complexe parce que les dynamiques dans les forêts ne sont pas toujours très bien connues entre ce qui est jeune, ce qui est ancien, le bois qui tombe, qui se dégrade au sol, qui lui-même réémet des gaz à effet de serre. C'est vraiment une mécanique très complexe sur laquelle les chercheurs travaillent. Mais voilà, nous, on part du principe que les bioénergies qu'on tire n'émettent pas de CO2. Enfin, elles ont pris autant qu'elles vont émettre de CO2. Et par contre, le scénario AFTER, vous pouvez vraiment le regarder, il détaille ça bien, lui fait que les pratiques agricoles vont augmenter un petit peu ce puits de carbone. Alors, et un point important que Frédéric disait, qui est lié, il faut savoir, parce que je suis désolé, je fais toujours des rebondissements, mais c'est parce que je suis passionné. Il faut savoir qu'en Europe, on est un des rares pays à défendre les bioénergies. Il y a beaucoup de militants écologistes en Europe qui ne veulent pas entendre parler de bioénergie parce qu'ils estiment que c'est soit trop exploiter la nature, soit risquer de perdre des zones naturelles, et avec tout ce qu'il peut y avoir, bien sûr, qui est une bonne question de biodiversité, etc. En France, il faut savoir qu'on a une forêt relativement dynamique. Pour l'instant, aujourd'hui, on coupe moins de bois qu'il n'en pousse. Et dans le scénario AFTER, on reste sur cette dynamique. Donc, c'est pas... parce que ça pourrait être une crainte, bien sûr. Il ne faut pas utiliser bêtement la ressource en biomasse. Il faut évidemment la gérer de manière très intelligente pour ne pas avoir de perte de biomasse et de biodiversité.
Mais alors, peut-être un petit point, parce que c'est vrai que dans votre présentation, Stéphane Signoret, vous avez précisé que le bois était le matériau biosourcé, le principal. Mais on sait aussi aujourd'hui que dans cette transition environnementale globale, on a besoin de terres agricoles, de récupérer justement des surfaces, et pas que pour le bois, mais pour nourrir les habitants de la planète. Est-ce que là, on ne risque pas peut-être de se retrouver avec une problématique à résoudre quand même?
Alors, selon le scénario After, hein, je suis désolé, je m'appuie sur lui parce que ce sont vraiment des spécialistes qui l'ont fait et il est solide. Si les pratiques agricoles sont bien adaptées, alors ça veut dire qu'on sort un peu du modèle intensif. Ça veut dire typiquement qu'on remet des arbres dans les champs, par exemple. On refait des haies, on refait du bocage. Hein, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle, mais en Normandie ou dans l'Allier, par exemple, le bocage bourbonnais, par exemple, est connu pour ça. C'est des haies. C'est bête, hein, mais une haie, ça pousse. Et si vous la taillez régulièrement, vous récupérez un peu de bois. En plus, vous favorisez la biodiversité. Bien souvent, vous limitez l'érosion des sols. Hein. Je détaille pas, mais globalement, ce scénario After permet de combiner. Le scénario After, il part d'un principe, c'est que c'est de l'alimentation d'abord. Hein, c'est l'alimentation d'abord dans le scénario After. Et donc, c'est jamais la culture, l'énergie au détriment de l'alimentation. Jamais.
Frédéric Delhomme.
Non, mais tu as terminé comme il fallait. En effet, c'est l'alimentation d'abord, et par contre, avec des évolutions aussi sur nos modes d'alimentation, notamment la place de l'alimentation carnée, etc. Donc, tout ça, c'est même extrêmement cohérent. Et ça montre aussi qu'il y a des opportunités importantes et un avenir extrêmement important pour nos zones rurales et nos zones agricoles.
Une autre peut-être question, oui. Comme je vois qu'il est presque... Si vous n'avez pas faim, on peut continuer. Hein, mais voilà, il est 20h30 passé. Allez-y.
Juste un mot. D'abord, merci beaucoup pour la perspective positive que vous présentez. Un des grands piliers, c'est la sobriété. Et c'est ce dont on parle le moins ce soir. Comment, dans votre scénario, vous avez imaginé le scénario politique associé à cette sobriété et comment motiver la sobriété autour de nous ?
Très, très bonne question. Et c'est malheureusement une des questions les plus difficiles à aborder. Techniquement parlant, dans le scénario, ce sont des pourcentages qui évoluent, hein. Donc, un peu plus de... Par exemple, avec les divorces, il y a une tendance en France à ce qu'il y ait moins de personnes par logement. Puisque du coup, les gens ont deux logements pour une seule famille. Enfin, vous voyez, le principe de famille éclaté. Donc, dans le scénario négawatt, on essaye de refaire remonter un petit peu ce chiffre, progressivement, au fil des ans. Par exemple, en ayant des logements intergénérationnels, en faisant plus de colocations. Ça ne veut pas dire qu'on en supprime le divorce, par exemple. On ne va pas jusque-là. Mais voilà, il y a des évolutions qu'on peut faire à ce niveau-là. Dans les logements, par exemple, comme celui que Frédéric a montré tout à l'heure, où parfois on peut rajouter un étage, par exemple, pour faire des parties communes. Vous allez partager, par exemple, la laverie. Pourquoi avoir chacun une machine à laver, finalement, quand vous allez l'utiliser qu'une fois ou deux par semaine ?
Là, on est donc dans
l'initiative spontanée.
Oui, donc il y a plusieurs choses dans la sobriété. Il y a de l'individuel, c'est-à-dire vous, votre choix, par exemple, c'est de plus prendre l'avion ou de moins le prendre, d'avoir une voiture plus petite, de voyager moins loin, de manger moins de viande, je ne sais pas, d'avoir un logement plus petit. Tout ça, c'est de la sobriété individuelle. Elle est importante, mais elle ne fera pas tout. Donc il faut aussi de la sobriété collective. Donc collective, ça veut dire s'organiser à l'échelle d'une rue, faire un covoiturage pour je ne sais pas quoi, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville. Hein. Enfin bon, là, ce n'est pas trop le cas à Paris, mais quand je fais des conférences un peu dans des zones plus rurales, ils me disent « Ouais, mais comment vous voulez qu'on fasse, nous ? On n'a pas de bus, on n'a rien, il n'y a pas de transport en commun. » Je dis « Bah écoutez, si vous êtes au moins 15 à penser ça, enfin à vouloir faire quelque chose, vous allez voir le maire et vous lui dites « On a regardé, on prend tous la voiture au même moment, le matin et le soir. Trouvez-nous un bus. » Et vous poussez. Enfin, donc ça, il y a du collectif qui peut s'organiser aussi. Et après, au niveau national, alors là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, même si le mot de sobriété commence à venir. Ça reste encore un peu un mot qui accroche dans la bouche des gens.
Et le mot décroissance aussi.
Voilà, parce qu'il est lié à décroissance, il est lié parfois à austérité, il est parfois lié à privation, il est parfois lié à précarité. C'est un mot très compliqué et vous comprenez bien qu'il va complètement... contre notre vie de surconsommation. Hein. On est dans une société de consommation, mais surtout de surconsommation en ce qui concerne nos pays dits civilisés. Et donc là, il y a vraiment tout un travail de pédagogie, d'explication. Moi, j'y travaille, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des mouvements citoyens qui commencent à porter ça. Donc il y a la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Il y a des mouvements de simplicité volontaire un peu en France et au Canada. Il y a des gens qui font du minimalisme. Il y a plein de... Maintenant, vous allez dans un magasin qui vend des livres, ou peut-être même ici, vous trouvez plein de bouquins pour mieux ranger votre bureau, votre appartement, pour vous débarrasser des choses qui vous encombrent. C'est devenu tendance. Tout ça, c'est de la sobriété, j'allais dire déguisée, mais même pas déguisée. Donc, il y a une sorte de mouvement, et je pense qu'il faut rapidement s'appuyer dessus pour qu'on arrive plus collectivement, et j'espère un jour nationalement, faire avancer ce sujet-là.
Voilà. Alors, je vous précise quand même que la semaine prochaine, justement, la conférence qui aura lieu jeudi à 19h est sur cette transition des territoires, les territoires en transition, avec notamment celle qui a fondé l'Institut Momentum, donc Agnès Sinaï, et avec Benoît Thévard. Et ce sera vraiment le thème, c'est-à-dire comment on doit repenser les territoires, comment on s'organise et qu'est-ce qui déjà est effectif sur le terrain. Donc, ce sera vraiment une belle façon d'entrer dans ce laboratoire d'expérience et d'expérience. D'expertise et d'analyse.
Alors, allez-y. Je vous remercie moi aussi. D'abord, je voudrais contextualiser les choses. Aujourd'hui, nous étudions les règles juridiques à travers le droit, le capitalisme à travers l'économie et la démocratie à travers les institutions de notre République. Chaque mutation de la société est nécessairement passée par l'éducation. Or, aujourd'hui, le combat que vous menez est associatif et politique. Mais l'offre éducative est très maigre. L'offre éducative associée y est très maigre. Alors, au-delà des procédés techniques que vous présentez ici très bien, ne faudrait-il pas s'engager encore davantage pour combler ce vide afin de développer une offre éducative crédible.
Éducation populaire, ça fait vraiment le lien avec la question précédente. En fait, c'est que, clairement, sur la question de sobriété, c'est un combat culturel et qui se joue par l'éducation, tant l'éducation initiale que tout au long de la vie. Après, peut-être une anecdote, quand j'ai commencé à bosser en 2005, mon voisin de bureau, il avait eu la même formation que moi sur le développement durable 20 ans avant, et il commençait juste à travailler dans le développement durable. Donc, longtemps, en fait, on avait même une suroffre de formation. Aujourd'hui, ça se développe à toute vitesse, mais clairement, oui, dans la formation de tous les métiers, il y a absolument besoin d'intégrer les questions de développement durable. Voilà.
Et je précise que quand même, les écoles, quelles qu'elles soient, et y compris les grandes écoles, aujourd'hui travaillent beaucoup sur ce terrain-là pour développer, suite à la demande aussi des étudiants qui poussent, c'est aussi une société civile qui pousse, et il y a cette demande, et qu'aujourd'hui, c'est en train d'être... ça émerge beaucoup dans le cadre de l'enseignement, justement, cet enseignement pour aujourd'hui et pour demain. Oui.
Et clairement, un exemple aussi, on parle beaucoup de finances. On a absolument besoin d'avoir des financiers qui soient formés à ces questions-là. Ça prend, nous, à l'APC, et je pense dans beaucoup dans nos secteurs, on prend du temps pour aller chercher ces secteurs qui ne sont pas encore vraiment sur ces thématiques. Mais c'est un monde complètement différent, qu'on ne connaît pas, donc il faut investir du temps pour le comprendre. Et en face, on a aussi besoin d'avoir des gens qui nous comprennent. Donc, je dirais, si je m'adressais à un jeune qui veut faire ou veut agir pour l'environnement, je l'encouragerais à aller voir s'inscrire dans d'autres secteurs économiques que peut-être la pure écologie, parce que c'est comme ça qu'on crée des ponts et qu'on arrive à faire bouger la société dans toutes ses composantes.
Allez, peut-être encore une question, parce que bon, je crois qu'il faut qu'on libère quand même tout le monde aussi.
Moi, je reviens sur la question de l'eau que vous avez posée en parlant de nucléaire. Vous avez dit il y a la production, il y a de l'eau en amont, de l'eau en aval, et je n'ai pas bien compris la quantité de l'eau qui est rejetée et qui réchauffe, qui produit la chaleur. Pouvez-vous dire encore?
Est-ce qu'on peut donner quelques informations sur ce terrain-là?
Alors effectivement, vous avez raison, si on utilise de l'eau dans les centrales nucléaires, c'est pour refroidir l'excès de chaleur qu'on a et qu'on n'arrive pas à transformer en électricité. Donc soit les centrales sont au bord des rivières, captent un peu d'eau, elle sert à réchauffer, vous la voyez souvent, alors soit elle sort dans les cheminées, soit elle est rejetée en partie dans l'eau, soit c'est la même chose dans les bords de mer. Donc moi, alors, je suis désolé, je n'ai pas les chiffres en tête des quantités qui sont réellement utilisées. C'est beaucoup moins que ce qu'utilise l'agriculture, par exemple. Donc il y a un enjeu, mais ce n'est pas non plus le pire des enjeux de l'eau en France. Il est parfois pas négligeable, typiquement, je crois que ça a dû arriver au niveau de la Garonne, peut-être, quand un été il fait chaud, et qu'une centrale doit quand même tourner, et que l'eau, enfin que le débit d'eau n'est pas assez important, la centrale peut avoir des problèmes pour son refroidissement. Donc en fait, sur l'eau, il y a plein de sujets. Vous pouvez avoir les deux, en fait, comme disait Aurélie Luneau tout à l'heure. Soit vous avez des problèmes d'inondation dans certaines zones, c'est-à-dire que la centrale, elle a un certain niveau de sol, et on sait qu'il y a des risques d'inondation. Donc ça, c'est un risque de sûreté, hein, la centrale pourrait avoir un accident. Mais à l'inverse, s'il n'y a pas assez d'eau, c'est pas génial non plus, parce que du coup, elle ne peut pas assez se refroidir. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, sur les centrales du Rhône, Donc il y a plusieurs centrales nucléaires qui sont sur le Rhône. Il y a eu un épisode de sécheresse. Et donc ce sont les centrales d'EDF, mais le Rhône, lui, au niveau de l'hydraulique, il est géré par une entreprise qui s'appelle CNR, hein, c'est la Compagnie Nationale du Rhône. Et EDF a été obligé de demander à la Compagnie Nationale du Rhône de libérer de l'eau dans les barrages en Suisse pour réapprovisionner tout l'amont, enfin tout le Rhône, pour être sûr que les centrales avaient assez d'eau pour se refroidir. Donc avec le réchauffement climatique, en fait, ce qu'on a du mal à voir, c'est ces épisodes-là un petit peu tendus au niveau des débits en eau des rivières vont être plus fortement... est-ce que ça va impacter plus fortement les centrales? De toute façon, ça impactera plein d'autres choses, hein, par ailleurs.
Merci à tous. Et je précise quand même que vraiment, comme on n'a pas pu répondre certainement à toutes les questions, tous les liens, toutes les informations, vous les retrouvez donc sur le site de Negawatt, sur le site de l'Agence parisienne pour le climat, et puis aussi sur la page du site de la BPI, bien sûr. Merci à vous.
Je vous rappelle juste, avant que vous partiez, la date donc de la prochaine rencontre qui a lieu vendredi 7 février prochain à 19h autour de la décroissance. Je vous remercie. Bonne soirée.